9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 15 du Club de l'été et fin de cette troisième semaine. L'espace-temps n'est plus le même depuis que nous avons débuté cette émission, une émission au cours de laquelle nous consacrons notre temps à la culture, au patrimoine et à la gastronomie. Un temps pour découvrir, apprendre et surtout partager. Aujourd'hui, ces deux heures de direct seront associées aux mots théâtre, cyclisme, Corégie, Vendée et sardine. Deux heures rythmées par les interventions de mes deux loustiques préférés, Lise Pressac pour le tourisme et la culture et Olivier Pouls pour la gastronomie. Salut les amis.
Salut Eva, bonjour à tous.
Bonjour Eva, bien dormi cette nuit?
Ça c'est très moche ce que vous venez de faire Olivier Pouls. Donc je vais être obligée de dire aux auditeurs que vous avez un appartement climatisé et pas moi. Et qu'il y en a un qui a bien dormi sur les deux.
Voilà. Oui, mais il y en a un qui a inondé son lit d'eau aussi.
Voilà. C'est très sympa. Les dossiers qui sortent,
nous sommes vendredi, c'est interdit, normalement,
nous sommes vendredi, joie ou tristesse, hein, soyez honnête.
Joie,
voilà.
Joie.
Bon, d'accord, joie. Ok. Bon, bah écoutez, je pensais que vous seriez un peu triste qu'on se quitte pendant deux jours, mais c'est pas grave. Lise, grâce à notre invité, nous allons nous balader en Vendée, mais vers quel site en particulier?
On va aller à Tiré, c'est dans le sud de la Vendée, dans les jardins de William Christie.
On va se faire tirer.
Voilà, ça c'est notre invité qui vient de faire une première vanne, on ne vous dit pas qui c'est pour l'instant. Olivier, est-ce que l'océan vous inspire?
Oui, et bien, moi je vais vous mettre en boîte, figurez-vous.
Ah, magnifique.
Comme les sardines.
Ah bah parfait.
On va parler de ce produit magnifique que j'adore personnellement. Je trouve que c'est très estival d'ailleurs.
Oui, et puis on va terminer l'émission avec une dernière recette pour agrémenter nos pique-niques.
Et un petit vrai faux du jour. Tiens, allez, on va en Corse. Est-ce qu'en Corse, on vous a déjà proposé du saucisson de dinde?
Oui.
Bon, est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que c'est une vraie spécialité corse?
Alors on dit rien et vous nous donnez la réponse à la fin de l'émission. On est d'accord?
Absolument.
Vous êtes tous les bienvenus dans le club. À vous de réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. On a déjà reçu des questions pour notre invité. Et nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité est animateur, producteur, metteur en scène, auteur, comédien, doubleur, humoriste et papa. Cher invité, tendez l'oreille, il a bien fallu choisir quelques sons qui racontent un tout petit peu votre vie.
Peste bubonique, ils ont vraiment l'air de s'éclater.
Faut faire attention, Mavie, hein. Ça peut être super dangereux si on sait pas ce qu'on fait.
Moi, je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je fais la météo sur Canal toutes les nuits, le temps est pourri.
And buried in your bone, there's the neck that you can ignore, taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind.
Oh, non, attends, allez.
Arrête.
Ça balance pas mal.
Bonjour Alex Good.
C'est compliqué, hein.
C'est compliqué.
Même en écoutant
mais
les trades.
Vous allez voir.
Mais pour les gens, j'imagine pour les gens.
On va décrypter.
Entre les trades, les dessins animés.
On va décrypter. Alex Good, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce club de l'été sur Europe 1. Animateur sur France Télévisions, metteur en scène de deux spectacles, Le Piano Percé Pédale au théâtre Le Mélo d'Amélie et Ménopause au théâtre de la Madeleine. Vous multipliez les projets. On va reparler évidemment de tout ça pendant les deux heures qui nous attendent. Mais auparavant, justement, qu'est-ce que vous avez entendu dans vos oreilles?
Oh ben, il y a eu plein de trucs. Il y a eu un extrait d'Hôtel Transylvanie.
Le dessin animé, dont vous avez assuré le doublage.
Je faisais la voix de Jonathan, le héros. Il y a eu Incroyable Talent, évidemment. Il y a eu Fort Boyard, où je suis encore demain soir.
Et oui.
Et où je vais encore morfler demain soir, comme tous les ans maintenant, parce qu'il m'aime bien, je crois. Il y a eu Adrien, qui est en ce moment au théâtre du Mélo d'Amélie et qui commencera au Grand Point Virgule à partir du 8 septembre.
Donc spectacle que vous avez écrit, mis en scène et produit,
oui,
avec Adrien qu'on a vu notamment dans The Voice 8.
Oui, cette année j'étais dans
candidats.
The Voice.
Voilà.
Et il était dans Résiste, la comédie musicale, c'est là où moi je l'avais vu et où je l'avais trouvé super. Et je m'étais dit, bon bah écoute, il est bien ce petit, on va faire quelque chose. Voilà, il y a eu un extrait de Claude François au début.
Alors ça, pourquoi?
C'était peut-être pour Ménopause, non ou pas?
Non, c'était pas pour Ménopause.
Parce qu'il y a cette chanson dans Ménopause.
Ah oui, alors vous voyez, c'est le hasard parce que c'était pas pour ça. Je crois que vous écoutiez cette chanson quand vous étiez enfant.
Alors oui,
et que vous adoriez faire.
C'est pour ça d'ailleurs que Claude François est dans Ménopause. Effectivement, Michel Sardou aussi est dans Ménopause. Non, parce que mes parents n'écoutaient que ça. Tu vois, c'était que Claude François, Michel Sardou et Francis Cabrel.
Que de la variété française.
Donc je connais tout. Pas que, je peux tout vous faire. Tu vois, si elle n'oubliait pas les paroles, si à Claude François, Michel Sardou, Cabrel, je suis un killer. Les autres trucs, non. Mais voilà, donc effectivement, ça m'a beaucoup bercé et j'écoute toujours. Et puis évidemment, Michael Jackson.
Ce que j'allais vous demander, ouais. Et après... Michael Jackson. Alors là, vous êtes un grand fan de Michael Jackson.
Oui, je pense que c'est même pas à cause, mais grâce à lui que je fais le métier que je fais.
Pourquoi ?
Parce que vraiment, j'étais vraiment fasciné par ce mec quand j'étais plus jeune. Je le suivais partout. J'avais la voiture, on allait partout où il allait. On était quelques membres du fan club à le suivre beaucoup. Je l'ai rencontré 25 fois.
Ah bon ?
Ouais, je l'ai vu un nombre de fois incalculable partout. On a discuté plein de fois. Enfin bref, c'était vraiment, j'étais vraiment un immense fan, un gros fan. Et très vite, ça m'a donné envie de faire des gros trucs, des gros spectacles monstrueux. Voilà. Après, je me suis vite aperçu qu'il ne fallait pas que je chante.
Oui,
que sinon,
ça.
Les gens ne venaient pas. Donc, je me suis dit, bon, on va oublier la chanson. Mais pour le reste, je fais quand même des gros spectacles un peu partout, j'ai de la chance. Et oui, je pense que c'est surtout parce que j'avais cette fascination. Tu as une idole. Voilà, c'est le terme.
Vous savez d'où vient cette hyperactivité que vous développez ?
Non, pas vraiment.
Vous étiez comme ça quand vous étiez enfant déjà?
Alors,
ou pas du tout?
Oui, déjà. Mais très petit, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo à 6 ans, si tu veux, et je faisais déjà 8 heures de jeux vidéo par jour en même temps que l'école. Mes parents
ne savaient
pas.
Ça me rassure pour mon fils, tiens.
mais j'ai un problème, c'est que je ne dors pas, si tu veux. Mais que j'ai depuis toujours. Donc, c'est-à-dire que la nuit, tout le monde croyait que je dormais, mais sauf que non, j'étais en train de jouer à mon ordinateur avec des serviettes sous la porte pour pas qu'on voit la lumière.
Ah oui!
Les trucs de malade mentaux. Je dors 4 heures par nuit à peu près. Donc, c'est vrai que du coup. Faut bien que je m'occupe. Et puis j'ai la chance d'aimer plein de choses et j'ai surtout la chance de gagner ma vie en faisant que des trucs que j'aime. Donc c'est pour le coup, je reconnais que je suis extrêmement vénard. Mais après, je travaille beaucoup et tout ça. Mais c'est vrai que j'aime faire plein de trucs et j'ai de la chance que tout fonctionne à peu près. Donc du coup, je m'arrête pas. Si un jour on me dit
c'est,
ah, c'est nul,
c'est une bonne raison.
Donc je m'amuse.
On va continuer à parler justement de ces pièces de théâtre que vous avez mis en scène, certaines écrites, d'autres produites aussi. Puis on va aussi parler de votre actualité télé, évidemment. Nous avons jusqu'à 11h pour revenir sur votre parcours et évoquer tous ces projets. Alex Good, je vous propose une première parenthèse musicale avec un tube de 2003. Le groupe Kyo qui chantait alors La Dernière
Kyo.
Danse. Kyo est sur
Europe
1.
Ils ont un peu disparu, ils ont fait un album et
oui,
tout, mais c'est pas...
Mais ça, ça avait...
Ça, c'était bien, ça.
Kyo.
Parcouru son corps effleuré, 100 fois son visage, j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes, parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence, un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. J'ai reçu de ses mains le bonheur ancré dans mon âme. C'est même trop pour un seul homme. Et je l'ai vu partir sans rien dire. Il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté.
Le son rock du groupe français Kyo sur Europe 1. Dans un instant, coup de projecteur sur notre invité, Alex Good.
Le club de l'été sur Europe 1. 9h, 11h.
Eva Rock.
Olivier Pouls, il est 9h24. Nous sommes en direct sur Europe 1 pour votre rendez-vous estival, le club de l'été. Vous avez vu ? Je ne me suis même pas trompée. Notre invité du jour est l'animateur de télé, le comédien et le metteur en scène Alex Good. Je suis obligée de dire tout ça parce que maintenant, c'est ça, votre vie aussi, Alex Good. N'hésitez pas à réagir hein, sur les réseaux sociaux, via Twitter notamment, avec le hashtag Europe 1. Avec Lise, on va relayer vos messages et vos questions. Alex Good, entre le garçon qui pensait devenir joueur de foot professionnel et celui qui aujourd'hui donc, jongle entre 10 métiers et sa vie de papa, quels sont les points d'ancrage, les choses qui n'ont pas changé?
Alors, je joue toujours aux jeux vidéo. Ça, ça n'a pas changé. Et en fait, j'aime toujours la compète. Donc, c'est un peu la même chose.
Si tu veux, vous avez un t-shirt un peu joueur de foot aussi.
Je te remercie.
un petit t-shirt rouge.
Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette compète. Tu vois, j'essaie toujours de
même
me
dans la vie professionnelle.
Ouais, toujours. Ouais. Parce que j'ai envie que ça marche. Quoi. Donc, je me bagarre comme un fou tout le temps pour tout. Donc, oui, donc, je pense qu'à ça. Parce que quand tu fais... un centre de formation, sport, tu bosses comme un taré. Quoi. Enfin, on ne se rend pas compte, mais il faut une espèce de niaque et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais très peu d'élus finalement. C'est comme quand tu deviens animateur radio ou quand tu es animateur télé. On n'est pas si nombreux que ça à faire ce métier. Donc, il faut toujours avoir une. Le plus important, ce que je dis toujours, même aux petits jeunes comme Adrien qui commence ça, c'est vraiment le mental. Toujours être à fond, jamais s'arrêter, jamais croire qu'on arrive à quelque chose, parce que malheureusement, tout change très vite. Donc il faut toujours être au taquet. Et voilà.
Alors vous parlez de compétition, je vais vous en donner une de compétition, en tout cas un défi. Oula, est-ce que vous pouvez, en 30 secondes pour chaque pièce, nous donner le pitch à la fois de Le piano perd les pédales et 30 secondes pour Ménopause.
Mais c'est extrêmement facile. Alors,
allez-y.
Le piano perd les pédales, qui sera donc au Grand Point Virgule à partir du 8 septembre, qui joue encore deux soirs au Mélodamini ce soir et demain, c'est un spectacle interactif, le premier de ce genre et le premier mondial de ce genre d'ailleurs, où tout se fait avec une application. On télécharge l'application Adrien sur son téléphone et du coup, pendant le spectacle, Adrien devient une espèce de marionnette. Il chante ce qu'on veut, il se coiffe comme on veut, il répond aux questions qu'on lui pose. Voilà, et c'est les gens qui font le spectacle finalement. Il y a plusieurs centaines de millions de possibilités de show les soirs, et ça augmente sans arrêt parce qu'on rajoute des choses tous les jours. Et voilà, donc c'est un show interactif avec un jeune homme qui sait chanter, danser, qui est drôle, qui est beau, qui fait de la magie, qui est incroyable. Voilà, donc ça faut le voir.
Le seul spectacle où vous avez le droit de laisser, vous devez même laisser votre portable allumé. Et
exactement.
Pour Ménopause, 30 secondes.
Ménopause, c'est facile, c'est l'histoire de quatre femmes qui n'ont absolument rien en commun. Tu as une chef d'entreprise, une comédienne, une maman avec 8 enfants et une baba cool. Elles n'ont rien en commun. Elles se retrouvent au Galeries Lafayette le premier jour des soldes et elles s'aperçoivent que si quand même elles ont un truc en commun, c'est ce que vit la moitié de l'humanité. Elles sont en pleine ménopause. Et du coup, elles ont un en commun, elles vont se rapprocher et ça va permettre à tout le monde, parce qu'on a des hommes qui viennent tous les soirs, on a des homosexuels qui viennent tous les soirs, on a des enfants qui viennent tous les soirs et qui finissent tous en standing ovation, d'apprendre tout et de comprendre que déjà, c'est pas tabou, qu'il faut arrêter d'avoir peur de ça et que c'est la vie. C'est tout.
Ben voilà, bravo, vraiment pile poil, 30 secondes les deux. Alors, on a reçu d'ailleurs un message sur Instagram avec le hashtag Europe 1. Une question pour vous Alex Good. Alex, après Twist Vegas, Timéo, le piano, Ménopause, à quand un Good Show?
Écoute, c'est le prochain truc.
Ah
voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je...
Un one man, un seul en scène?
Non, ça je ferai jamais.
Ouais.
Je déteste ça. J'aime bien les faire. Tu vois, en ce moment, il y a Anne Bernex qui joue à Avignon, que j'ai mis en scène aussi il y a 5 ans. Mais j'aime bien mettre en scène des one-man parce que justement, c'est des gens, tu vois, qui ont cette envie, cette motivation. Je trouve ça, voilà, moi, ça ne m'amuse pas d'être seul une heure et demie.
Donc ça sera quoi ? Un good show avec une troupe autour de vous ?
Oui, ce sera un spectacle, en fait, une pièce de théâtre, voilà, un spectacle, mais un petit peu fou comme d'habitude, parce que je ne fais que des trucs un peu tarés. Mais l'idée, c'est le prochain truc, mais j'en fais un par an. En théorie, cette année, il se trouve que Ménopause devait être l'année dernière et qu'il a été décalé cette année. Donc c'est pour ça qu'il y en a deux. Mais j'en fais un par an, normalement. Donc voilà, je serai l'année prochaine. Voilà.
Ben voilà, c'est une première bonne nouvelle et hyperactivité de Alex Good maîtrisée. Dans un instant, vous allez nous faire partager un de vos coups de cœur. Et Laura May, une auditrice sera également en direct avec nous pour nous faire découvrir un spectacle étonnant. A tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend
avec le club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été en présence de notre invité.
Il n'y a pas de trampoline.
L'homme qui n'entre dans aucune case.
Les clubs de l'été, normalement à la plage, il y a des
trampolines. Ça, c'est le club Mickey. Oui. Ça, c'est le club Mickey. Vous pouvez choisir entre le club Mickey et le Macumba. Et il y a le club de l'été au milieu. Le Macumba, vous savez, pour danser au bord de la plage. Quoi. Voilà, aussi. Oui, je vais au Macumba.
Mais sinon, les fantasmes d'Eva, voilà. Les fantasmes estivaux d'Eva.
Le club de Mickey ?
Non, le Macumba.
Vous cette bête. Alex Good, préparant cette émission, nous vous
Alex
avons demandé.
Aussi, parfois, il fait très chaud.
Oui, c'est
en ce
vrai,
moment,
oui, c'est pour ça. Vous nous avez demandé quel était. Nous vous avons demandé quel était votre coup de cœur culturel. De façon assez logique, vous nous avez répondu le film Avengers Endgame. Vous êtes fan de super-héros.
Oui.
Mais aussi Mario, le jeu vidéo. Bah, logique, hein, parce que depuis que vous êtes né, vous jouez aux jeux vidéo.
Depuis
vous avez même été testeur
ans.
De jeux vidéo.
Oui, j'ai travaillé dans le jeu vidéo et je travaille encore dans le jeu vidéo.
Voilà.
Aujourd'hui
encore. Quel niveau à Mario ?
Ah bah non, mais je suis Mario Kart, je suis imbattable.
Ah, voilà.
Non, mais je l'annonce officiellement, je suis imbattable. Il y a des gens, s'ils veulent me retrouver sur la Switch, sur Mario Kart 8 Deluxe, il n'y a pas de problème. Je suis un killer absolu. Ils ont fait un concours l'année dernière à Micromania, j'ai battu 350 personnes d'affilée. Voilà. Je suis imbattable.
Alors,
en toute modestie.
Okay.
Voilà.
Sur la chanson, je pense que Adrien vous bat considérablement.
Ah oui.
Oui. Parce que c'était un de vos coups de cœur, mais c'est logique puisque vous le produisez.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Oui, ça, on n'a pas droit.
Plus
même.
Étonnant,
non, c'est
vrai. On n'avait pas droit à ça. Plus étonnant, vous nous avez cité une chanteuse. Et puis à
quoi bon ? Bah oui, c'est très sympa quand même pour
chanter.
Vous aimez pas ?
On est fan. On est fan.
J'adore. Ça me détend.
Ouais.
J'aime bien. Je trouve qu'elle est jolie, intelligente, et puis elle parle sympa. Enfin voilà.
Assez loin de Michael Jackson, on est d'accord. Hein,
ah oui. Non mais attends, j'ai des goûts éclectiques.
Mais c'est très bien, c'est très bien, Alex Wood. C'est très très bien. Alors je sais que la musique a quand même une place importante dans votre vie. Hein. Vous en écoutez énormément.
Oui, j'écoute tout le temps de la musique chez moi, pour travailler, pour les inspirations, pour plein de choses. Oui, j'aime bien.
Alors, et donc Angèle nous rejoint dans ce studio, non ?
Oui, bientôt. Ah, bientôt.
Bravo, bonjour.
Bientôt, Olivier. Alex Good, dans la liste de nos coups de cœur, il y a un événement musical aussi. Et quel événement ? Pas simplement musical. Depuis 150 ans, les Corégies d'Orange font battre le cœur du théâtre antique. Le festival d'opéra, de musique et de danse se poursuit d'ailleurs jusqu'au 6 août. Bonjour Jean-Louis Grinda.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le directeur de ce festival hors norme. Je dis hors norme et hors du temps parce que les Corégies donc, ont survécu à la défaite de 1870, aux deux guerres mondiales et à mai 68. Comment vous expliquez cette longévité, cette résistance au temps ?
Ben, j'espère qu'ils vont résister également à moi-même comme directeur. Ce serait génial, de très bonne santé. Mais voilà, non, je crois que c'est une entreprise folle qui a été décidée en 1869 par des gens un peu illuminé, qui voulait créer dans cet théâtre antique absolument merveilleux un festival hors catégorie. Ça a plu tout de suite à un maximum de public, il y a eu un engouement et puis bien sûr des désastres, des problèmes, des échecs artistiques, mais il y a toujours eu autour des Corégies un amour du public. Et c'est cet amour du public que j'essaye de continuer de cultiver.
Jean-Louis Grinda, il paraît qu'aucun artiste n'a refusé de chanter aux Corégies. Vous les menacez, vous les payez très bien, comment ça se passe ?
Non, je leur parle du lieu, je leur parle du théâtre antique,
bien sûr.
Je leur parle de cet endroit merveilleux, de l'acoustique exceptionnelle, parce que c'est un endroit vraiment merveilleux. Il n'y a pas longtemps, on avait Jeff Mills, qui n'avait strictement rien à faire a priori au théâtre antique dans le cadre des Corégies, mais que j'ai voulu inviter pour changer un peu la programmation et permettre à des gens de venir. Et quand Jeff est rentré dans le théâtre antique, il a été complètement ébloui. Et il n'a qu'une envie, c'est de revenir. Voilà, il y a un impact du lieu sur le public et sur les artistes qui est fantastique.
Olivier Pouls, hein.
J'ai eu la chance de venir et c'est vrai que c'est inouï, c'est dingue. Quand on entre dans ce lieu, on est happé. Et je peux comprendre que ce soit le public ou évidemment les artistes, il n'y a pas deux endroits au monde comme ça.
Oui, ça c'est vrai. Et dites-vous bien que c'est un théâtre antique donc, qui a été construit par des Romains il y a plus de 2000 ans et on n'y a toujours fait que du théâtre. On n'y a pas bouffé des chrétiens, on n'a pas sacrifié des gladiateurs, non, non. On n'y a fait que du théâtre, de la musique, de la danse, de la poésie. Et les artistes qui rentrent ici pour jouer, que ce soit Roberto Alagna par exemple, qui est un des plus grands ténors français du moment et des dernières années, eh bien, on sent que dans ce lieu-là, qui est magique, il s'est passé quelque chose qui perdure depuis des milliers d'années.
Ah oui, voilà. Les pierres ont la mémoire de tout ce qui s'est passé depuis tant de temps. Il a fallu adapter ce que vous disiez, la programmation, justement, à toutes les époques pour attirer un nouveau jeune public.
Oui, le but, si vous voulez, c'est de faire de la plus haute qualité possible. Quand j'accueille Jeff Mills, c'est avec un orchestre symphonique. J'essaye de créer la surprise, de donner de l'envie aux gens de découvrir notre programmation. Je ne veux pas qu'on dise on ne va pas aux Corégies parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse cette année. Mmh. Il faut que ce soit le plus transversal possible. Il y a de la danse. Bientôt, il y aura du théâtre. Il y a du grand concert symphonique lundi prochain avec la Symphonie des Mille de Gustave Mahler. Donc,
c'est ce que j'allais vous dire. Pour les 150 ans des Corégies d'Orange, c'est un événement considérable ce qui nous attend lundi.
Oui, c'est même un très très gros truc absolument incroyable parce qu'on a réuni les deux orchestres de Radio France, les chœurs de Munich, les chœurs de Radio France, la maîtrise de Radio France sous la direction musicale d'un très grand chef d'orchestre. Ça sera certainement un concert unique au monde. On a déjà joué la Symphonie des Mille, pas très souvent parce que c'est très compliqué à monter, mais on l'a très peu fait dans des endroits comme les Corégies, comme le Théâtre Antique d'Orange. Et là, vraiment, ça sera vraiment une soirée, par l'acoustique et par l'ampleur du projet, inoubliable.
Un millier d'artistes sur scène, ce sera lundi soir au Corégies d'Orange, dont on célèbre les 150 ans d'existence. Une soirée exceptionnelle qui sera d'ailleurs retransmise sur France 5 en direct. Merci infiniment Jean-Louis Grinda d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Et puis on vous souhaite évidemment un très très bon fin de festival.
Avec Don Giovanni. Merci
avec
beaucoup.
Don Giovanni. Merci, merci. Alex Good, je vous propose de nous téléporter d'Orange à Tunis, figurez-vous, parce que nous sommes en ligne avec une auditrice qui voulait aussi nous faire partager son coup de cœur. Bonjour Laura Maille.
Salut les copains.
Comment ça va?
Bah écoutez, un peu fatiguée. Vous savez qu'on a eu une journée de travail en Tunisie un peu triste avec la mort du président.
Et oui, et oui.
Donc cette fois, je ne me suis pas couchée parce que j'ai fait la fête.
Vous avez fait la fête. Et vous avez
non,
fait
non,
la fête
du tout.
Oui, non,
j'ai
non,
fait mon boulot.
Vous avez fait votre boulot. Vous êtes actuellement effectivement en Tunisie, Laura Maille, et vous avez eu la chance de voir un spectacle formidable intitulé 24 parfums qui débarque en France le 19 septembre. Je vais y arriver à l'Olympia. C'est pour ça qu'on voulait en parler. Vous pouvez nous décrire un peu ce spectacle?
Ouais, c'est absolument remarquable. Il ne faut pas rater ce spectacle, 24 parfums, par Mohamed Ali Kamoun, qui est un pianiste de jazz à l'origine, un grand pianiste de jazz tunisien. Et qui a appelé son spectacle 24 parfums parce que c'est les 24 gouvernorats de Tunisie. Et c'est un projet qui dure depuis 2013 maintenant. Hein. Donc il y a eu beaucoup de petits ateliers, puis des laboratoires. Et ce projet fou, opiniâtre, a consisté à retrouver les traditions musicales locales dans chaque région de Tunisie pour en montrer la variété, la richesse, le métissage aussi, parce que la Tunisie, c'est aussi les influences andalouses, algériennes, méditerranéennes, grecques, antiques, africaines. C'est un carrefour de traditions. Et donc, il a mélangé le jazz à ses musiques métisses, le jazz étant lui aussi une musique de métissage, hein, puisque c'est la route des esclaves. Aujourd'hui, ça donne un spectacle avec un orchestre qui réunit les meilleurs Tunisiens musiciens de jazz et de musique traditionnelle. Je prends l'exemple de Ahmed Litaouen, qui est un joueur de naï. Le naï, c'est cette flûte arabe traditionnelle que j'ai eu la chance de voir jouer un trio de jazz qui reprenait Coltrane, d'ailleurs.
Oh là là,
donc,
d'accord.
Vous voyez que
oui,
tout ça se rejoint, se rencontre et a du sens. Et ce que vous allez voir le 19 septembre à l'Olympia, c'est, il ne faut pas rater ça, parce que c'est vraiment l'aboutissement d'un projet, comme je vous dis, qui a pris racine en 2013. Et vous allez avoir sur scène, en plus, quelque chose de très visuel, parce qu'il a rajouté de la danse, il a rajouté de grands chanteurs comme Lili Ben Chira, qui est une chanteuse tunisienne très très remarquable et de grandes...
Ah, on a perdu Laura Maille. On l'appelle. Ah non,
oui,
on vous êtes
non,
avec
je suis
nous.
Là.
Oui, vous êtes là. Vous êtes là. Il y a une petite coupure.
Tunis-Paris, ça fonctionne toujours.
C'est ça.
Ce que vous allez voir le 19 septembre à l'Olympia, c'est très classieux. C'est vraiment très respectueux du public et de la Tunisie, qui reste une tradition musicale méconnue, mais qui a aussi un vrai amour du jazz dont on ne parle pas assez.
Merci infiniment, parce que vous nous avez vraiment donné envie d'aller voir ce spectacle qui s'appelle Les 24 parfums et qui sera donc en France le 19 septembre à l'Olympia à Paris. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin depuis Tunis, Laura Maille. On vous souhaite un très très bel été. Si vous aussi vous avez eu un coup de cœur pour un spectacle, un livre, un film ou une exposition comme Alex Good ou pour, comme tous nos auditeurs, vous nous envoyez un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Le standard, le 3921 est également disponible et on revient vers vous rapidement. Alex Good, dans un instant, on continue de parcourir la liste de nos envies avec nos coups de cœur écran. Il sera question de séries évidemment et du Tour de France aussi.
Europe 1. Le club de l'été, Eva Rock.
Le club de l'été se poursuit sur Europe 1. Deux heures de direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Et un invité principal ce matin, c'est l'animateur et comédien Alex Good qui est avec nous. J'aurais pu rajouter metteur en scène, producteur. Comment je fais pour
pas
vous présenter Alex
pas
Good?
Pas peintre, pas nageur, pas tous les
vous
trucs que
sûr,
je sais
vous
pas.
Vous êtes pas nageur?
Ah non, je sais pas nager.
Comment ça, vous savez pas nager?
Bah non, je sais pas nager, mon vieux.
C'est vrai, vous avez jamais appris?
Eh non.
Même à l'école.
Alors, j'ai commencé à apprendre parce qu'il était question à un moment donné que je fasse une petite émission un petit peu. Il fallait savoir nager. Et finalement, j'ai quand même toujours trouvé la phobie de la flotte, donc non.
Mais alors attendez, il va falloir qu'on fasse le clair sur cette question parce que j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est la chance, de participer à une émission que vous avez présentée qui s'appelait Total Wipeout,
oui.
Où on tombait dans l'eau à la fin, où j'ai failli quand même mourir et vous, seriez pas, vous n'auriez pas pu venir me sauver.
Pas
si, d'accord,
pas
okay.
Alors après, je l'ai fait aussi le parcours et oui. J'avais un gilet de sauvetage comme vous.
J'avais un gilet de sauvetage.
Parce que moi, sans gilet, je coule.
D'accord.
Comme une pierre, tu vois.
Pouf. Et moi, pensant que vous alliez me récupérer, assommé.
Allez feindre un malaise en espérant qu'un beau maître nageur saute à l'eau, évidemment.
J'ai bien failli ne pas le feindre du tout et l'avoir totalement, ce malaise.
Je vous aurais vu à l'eau, j'y serais allé, Eva, je me serais sacrifié.
Vous vous en souvenez encore de cette scène,
bien
quand
sûr.
Même
ah bah oui,
parce
oui.
que vous avez beaucoup ri en me voyant faire.
Oui, ah bah, c'est-à-dire
que... Vous êtes beaucoup moqué pendant plusieurs jours.
Quelle idée.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est sympa.
Je vous twisterai. Je vous twitterai les photos de Total Wipeout sur, évidemment, sur Twitter avec le hashtag Europe 1. C'était une très belle époque. Vous êtes fan de séries américaines, Alex Good.
Oui, c'est un peu trop même d'ailleurs.
C'est-à-dire
je regarde trop de séries. J'ai même anecdote, quand j'ai déménagé, puisque j'ai malheureusement vécu une petite séparation personnelle dans ma vie l'année dernière. Donc je suis rentré en France pour essayer de me requinquer un peu.
Parce que vous étiez à Las Vegas.
Voilà,
et puis vous continuez à faire des allers-retours entre Vegas et Paris.
Là, tu vois, je suis dans deux semaines. Mais je suis rentré en France au mois de mars de l'année dernière. Et j'ai invité mes amis pour le premier match de l'équipe de France. Tu vois, pour me dire, ah bah, venez, on va faire la fête chez moi, on va regarder. Et je me suis aperçu qu'en fait, je n'avais pas branché ma télé entre le mois de mars et le mois de juin parce que je ne faisais que regarder des séries. Donc,
Sur les
plateformes, oui. Il a fallu en panique rebrancher les trucs, trouver la télé. Et c'est là où je me suis dit, mon Dieu, je suis devenu intoxiqué de séries. Je ne regardais même plus la télé. Alors, je me suis remis depuis, mais du coup, je ne fais que regarder les séries. C'est horrible.
Mais ça veut dire que vous pensez qu'on a totalement modifié notre rapport aux écrans et que
façon,
la télé. Pour vous, c'est la télé est morte.
Alors non. Je ne pense pas ça du tout, sinon j'arrêterais d'en faire. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire après? Je ne pense pas que ce soit mort. Je pense qu'il va se passer la même chose que ce qui s'est passé partout quand il y a un nouveau média qui arrive sur Internet ou un nouveau type. Tu vois, Amazon est arrivé et du coup, finalement, les grandes surfaces galèrent un peu. Et par contre, tu reviens vers ton petit commerçant local, vers ton truc pareil. Et là, c'est exactement pareil. Je pense qu'on ne pourra jamais rivaliser, malheureusement, sur nos chaînes avec des Netflix, des Disney qui arrivent, des Amazon qui ont des budgets monstrueux parce que leurs émissions sont vues par le monde entier, pas que par la France. Oui. Tu vois. Et donc, on va aller le soir tranquillement regarder ça, mais qu'on va aussi retourner vers le local, exactement comme dirait ton petit commerçant plutôt qu'aller sur Amazon. Je pense que tu vas voir ce qui t'intéresse toi, et donc la télé régionale ou des programmes régionaux.
Comme ce que vous faites sur France 3 tous les jours,
exactement.
À 10h50, on vous retrouve.
Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai accepté ça, parce que dans ma tête, si tu veux, on va switcher. Voilà, je pense que les gros divertissements, comme regarde les scores de The Voice cette année, regarde les scores de l'émission de TV de M6 qui avait cataclysmique, on ne regarde plus ça. Parce que tu n'as plus envie d'être à une heure fixe devant ta télé, regarder un truc, tu regardes quand tu veux, tu consommes quand tu veux. Et c'est compliqué maintenant de rivaliser avec une Casa del Papel ou avec un Stranger Things.
Alors, c'est ce que j'allais vous demander.
20 millions l'épisode.
Les séries qui vous ont marqué ces derniers temps, c'est quoi? Si vous aviez trois séries à conseiller à nos auditeurs, vous diriez quoi?
Je suis un malade mental. C'est-à-dire que tu vois, la Casa del Papel, c'est sorti l'année dernière. Bon, hop.
Ça y est, c'est fini.
Mais vos journées, elles font 35 heures, vos journées.
Mais oui,
non, mais je ne dors pas beaucoup. Vraiment.
Oui, d'accord.
Je te jure que je dors très, très peu. Et donc, du coup, ça laisse quand même. On ne se rend pas compte. Mais
il faut occuper le temps.
On perd du temps à dormir.
Ça laisse beaucoup de temps. Et puis surtout, en fait, je suis aussi un peu. Je fais plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que je peux. Tu vois.
Oui, mais vous ne pouvez pas regarder une série et faire un autre truc en même temps.
Eh bien, alors en fait, si.
Ah bon?
Bah oui, c'est un peu bizarre.
Ah oui.
Par exemple, je réponds à mes mails pendant que j'ai une série. Tu vois.
Ah oui, mais vous savez, vous manquez. Si vous loupez une scène, moi j'aurais trop de frustration.
Mais non, parce que je réponds à mes mails sans regarder l'écran.
D'accord.
C'est là.
Ah, je comprends mieux.
C'est là où c'est.
Je comprends mieux les fautes d'orthographe. D'accord.
Mais je n'en fais pas.
Mais Alex Good, il y a un secteur pourtant qui résiste tant bien que mal à l'offensive des plateformes.
Oui.
C'est le sport. Et notamment les grands événements
pas
en direct.
Regarde. Roland Garros arrive sur Amazon?
Oui, pour l'instant, ils sont sur France Télévisions et ça sera sur toutes les chaînes. Et ça résiste pas mal. Et il y a une manifestation que vous ne pouvez pas me dire, c'est sur une plateforme ou quoi que ce soit. C'est le Tour de France.
Ah.
C'est le Tour de France.
Mais en même temps, c'est normal. Tout ce qui est événement, ça restera un moment où tu ne veux pas rater ça. Donc, tu es devant ta télé à ce moment-là. Je veux dire, quand tu as Federer, Djokovic en finale de Wimbledon et que
exactement.
Ça dure 44 heures,
exactement.
T'es devant ta télé, tu espères que Federer va gagner, il perd, tu pleures et tu es énervé. Mais c'est vrai que c'est, quand on arrive à créer des grands événements comme ça, tu le regardes.
Bonjour Laurent Luard.
Bonjour Eva.
Comment ça va?
C'est Laurent, c'est Lolo, comment ça va?
Très très bien.
Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes à Tignes en fait, Laurent Luya. Vous allez présenter d'ailleurs ce soir sur France 2 le Vélo Club. Vous suivez le Tour de France et la caravane de ce Tour de France. Mais quel Tour de France passionnant! Vous avez tous les ingrédients, hein, du suspense, des champions français,
des Français,
des étapes magnifiques.
C'est chaud aujourd'hui là.
Mais oui.
Ouh là là.
Mais y a, c'est vrai qu'il y a tout. Je pense que c'est le plus beau Tour de France depuis 30 ans. Vous vous souvenez, avec l'arrivée, avec le duel entre Laurent Fignon
bien
et Greg LeMond.
Bien sûr, les 8 secondes.
C'était il y a 30 ans, c'est Laurent.
Et oui, c'était 1989. et c'est vrai que je crois qu'on n'avait pas vécu un tour aussi palpitant depuis 30 ans. Là, c'est extraordinaire. En plus, il y a encore 2 épisodes dans les Alpes aujourd'hui et demain où on va savoir, en fait, c'est un suspense incroyable. Il y a les 5 premiers qui se tiennent en moins de 2 minutes et des audiences, c'est vrai que je vous ai écouté
mais oui,
tout à l'heure.
Audience record, hein.
Alors, audience record, hier l'étape fait 6 millions de téléspectateurs en moyenne avec un pic à 7 millions. Le Vélo Club qui suit à 3 millions 100, 30% de part de marché. Enfin, c'est vrai qu'on explose tous les records cette année et c'est fantastique. Et tant mieux, ça veut dire que voilà, pour ces événements-là, la télé a encore de beaux jours devant elle.
Oui,
hein, c'est sûr, hein.
Laurent Luyat, est-ce que cet enthousiasme qu'on sent à travers l'écran, vous le sentez-vous aussi sur place? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce qu'il y a plus de monde que d'habitude d'ailleurs sur le long de la route, autour de vous aussi, dans le studio, etc.?
Ah oui, il y a une effervescence cette année, mais c'est incroyable. Puis c'est vrai que Christian Prudhomme, le patron du Tour, dit souvent le Tour, c'est 3500 km de sourire. Et c'est vrai qu'autant, par exemple, l'an dernier, il y avait eu encore des suspicions, etc. Enfin bon, voilà, les gens n'étaient pas trop dedans. Là, cette année, c'est un engouement comme on n'a plus vu depuis très, très, très longtemps. Et on le voit sur le bord des routes, il y a beaucoup de monde. Les gens viennent nous accoster sans arrêt. Et puis, ce que fait Julien Alaphilippe, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il va porter le maillot jaune pour le 14e jour,
mais oui,
en fait.
Mais il va dire ou pas.
En jaune.
Il y a Alex Goude qui vous demande s'il va tenir, d'après vous.
Alors, c'est tous les jours.
Et tous les jours, on dit ça.
Il va peut-être le perdre, et à chaque fois, le soir, il le conserve. Donc, franchement, je pense qu'on ne peut plus faire de pronostics. C'est-à-dire qu'Alaphilippe peut rester en jaune jusqu'aux Champs-Élysées. Thibaut Pinot, je crois qu'hier, c'était pas terrible pour lui.
Petit coup de mou.
Petit coup de mou. Alors, il a toujours une journée un petit peu en dessous. Donc, espérons que c'était hier, voilà, et qu'aujourd'hui et demain, ça va aller pour lui. Il peut gagner le tour, ça. C'est sûr. Il y a le Bernal, alors c'est celui qui nous fait le plus peur, le Colombien qui a 22 ans, qui est maintenant deuxième au classement, qui n'a peur de rien. Normalement, c'est pas lui le leader de son équipe, c'est Geraint Thomas, mais il s'en fout, il est devant. l'insolence de la jeunesse. Voilà, c'est un super coureur. Bon, ben voilà, c'est un suspense, et je pense que franchement, là, cet après-midi, il y a
on
le col
ouais.
de l'Isran, qui est le toit du tour, hein. Plus de 2700 mètres, vous vous rendez compte, où l'oxygène se raréfie. Il y a la montée de Tignes. Je peux vous dire que là, je vous parle avec un décor absolument fantastique, les montagnes qui sont devant moi.
Vous faites un dur métier, Laurent Luyat,
oui,
franchement.
Oui, c'est un dur métier. Ouais. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, non, mais on profite. Eva, c'est tellement formidable d'être au cœur d'événements comme ça, de pouvoir le partager avec le public. En plus, je tiens aussi à parler de tous ceux qui sont avec moi.
Alors, j'allais les citer. Hein. Marion Rousse, qui est ancienne cycliste, oui. Thomas Vauclair, également ancien coureur, l'historien Franck Ferrand, les journalistes Alexandre Pasteur, Nicolas Gé, Thierry Adam, Laurent Jalabert, et vous, en directeur sportif de cette équipe.
Voilà,
c'est ça.
Mais oui, et puis c'est une équipe homogène, tout le monde s'entend bien, il y a une ambiance, franchement, il y a une ambiance extraordinaire aussi dans notre équipe. J'avais jamais vu ça, en fait. Voilà, tout le monde s'aime, tout le monde...
un peu comme ici, d'ailleurs.
Un peu comme dans le club de l'été. Voilà, ouais.
Exactement.
Et vous ne pouvez jamais venir nous voir parce que vous êtes toujours sur les grands événements sportifs en plein été. Donc, on n'arrive jamais à vous attraper dans ce studio.
Bah là, on se régale parce qu'on a appris une bonne nouvelle aussi. Vous en parliez. C'est vrai que Roland Garros sera sur France Télévisions jusqu'en 2023. Donc, voilà, on l'a su hier. Ça a été compliqué, même si pour la première fois, les GAFA viennent se...
Oui, les GAFA, ce sont les Google, Amazon,
ouais,
Facebook et autres.
Amazon,
c'est la vie, Laurent. On ne peut pas lutter.
Oui, mais on reste quand même aux commandes, on va dire,
bien sûr.
De 11h du matin jusqu'à...
Et puis on ne pourra te voir que sur France Télé.
Oui, on
donc
pourra
on ira
voir
te
que
voir
sur
France
Télé.
Voilà. C'est toi qu'on veut voir, Laurent.
Merci.
Et Eva, juste si je peux annoncer aussi, parce que le prochain gros événement, ce sont les championnats du monde d'athlétisme, parce que ça va être spectacle absolument fantastique à Doha. Donc ça sera fin septembre, c'est reculé à cause de la température,
et tant mieux.
Au mois d'août. Et tant mieux. Voilà, et tant mieux. Et c'est 7 prime sur France 2, 7 primes consécutifs là-bas à Doha avec les championnats du monde d'athlètes. Je peux vous dire, il y aura 25 caméras dans le stade. Ça va être un spectacle incroyable.
Alors, je serai votre première fidèle, vous le savez, parce que j'adore l'athlétisme. Merci beaucoup, Laurent Luya, d'avoir été avec nous ce matin. Le Vélo Club, c'est tous les jours en direct après la fin de l'étape et jusqu'à 18h30. Alex Good, on se retrouve dans un instant avec un petit humoriste, la carte postale de Ben H. A tout de suite.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Il est 9h53 sur Europe 1 et jusqu'à 11h, c'est votre club de l'été avec notre invité VIP, Alex Good. Alors Alex, ne craignez rien.
J'ai entendu VIP.
Mais oui,
mais non, VIP, pas VIP.
Oui, c'est ça.
VIP, vous avez même un message de David sur Twitter avec le hashtag Europe 1 qui nous dit « Alex Good est peut-être imbattable à Mario Kart, mais moi je le défonce sur 50 mètres brasse quand il veut. »
Et il a bien fait de préciser.
Oui. Alex, je vous présente Ben H.
Bonjour Alex. Bonjour, mais Ben H parce que tu fumes beaucoup.
On n'a pas posé la question depuis le début,
ça
en fait.
Un grand mystère,
ça reste un mystère. Ouais, c'est un H.
Très bizarre.
Ouais.
Je ne consomme aucune drogue. Question. Donc,
voilà. Ben H, il a pour mission de nous faire voyager cet été avec des cartes postales mythomanes. Vous revenez d'où ce matin, Ben H?
Je vous le dis tout de suite, avec la chaleur qu'il a fait, j'ai rien foutu. J'ai pas voyagé, Eva, du tout, mais j'ai pensé à vous toute la journée, hier.
Pourquoi?
Entre les 45 degrés à Paris et les messages d'appel à solidarité avec les personnes âgées. J'étais pas inquiet au point de vous téléphoner, mais je suis heureux de constater ce matin que vous êtes visiblement bien hydraté. C'est vrai, faut être prudent, hein, quel que soit l'âge d'ailleurs, en cette période, et surtout boire régulièrement. Hein, même s'il faut bien le reconnaître, personne n'en parle, mais il est difficile de concilier les consignes sanitaires en cas de canicule et la vie de couple.
C'est-à-dire?
D'un côté, le gouvernement te dit de boire beaucoup, et de l'autre côté, il y a ta femme qui te dit t'as encore trop bu.
Oui.
Du coup, on s'embrouille, elle s'énerve et je dors sur le canapé. Il fait chaud, ça me dérange pas de dormir seul, mais comme je dis souvent, à partant de canicule, comment veux-tu?
C'est bon. Voilà. Mais les consignes par forte chaleur, Benach, c'est de boire de l'eau en fait, hein, pas de l'alcool.
De l'eau.
Voilà.
De l'eau.
De l'eau.
Oui. Oui, ça marche sans doute, j'ai jamais essayé en Happy Hour ça, personnellement.
Non, j'ai pas essayé Happy Hour
d'eau. Bref, c'est horrible cette canicule. Donc pour dépanner un ami, la partie à l'étranger, j'avais accepté au début des vacances de passer une fois par semaine pour arroser ses plantes. Et depuis lundi, là, je me retrouve à y passer trois fois par jour pour arroser sa grand-mère.
Oh non.
Mais c'est bon, c'est fini, là, le problème est derrière moi.
Mais pourquoi? Parce que les températures vont baisser?
Non, parce que j'ai surtout déposé la grand-mère sous l'arrosage automatique d'un rond-point à Boulogne. Ça s'active toutes les deux heures, là, je suis tranquille. Je l'ai retrouvée ce matin, mamie, c'était le désert de Gobi, je vais la récupérer. Et ce soir, avec un peu de chance, il y aura même des bégonias qui auront poussé sur sa tronche.
Bon, avec ça, on ne saisit pas trop le côté voyage de la carte postale du jour.
J'y viens. Eva, fort de mes conclusions sur la chaleur ambiante dans l'Hexagone, je voulais donc ce matin vous emmener dans le froid, à la Sibérie, l'Alaska, voire même le cœur de Christine Boutin, pour aller vraiment vers les pays glaciales. J'ai même pensé à vous amener au Kazakhstan, pays d'Asie centrale, en endroit où était comme hiver, il fait 2,5 degrés. La dernière canicule là-bas, c'était il y a 10 ans, et cet été-là, il a fait 6. Je peux vous dire que le gouvernement kazakh, il n'a pas arrêté ses vacances pour dire à tout le monde de s'hydrater sur BFM TV. Mais alors que je m'apprêtais à m'envoler pour le Kazakhstan, j'ai repensé un instant à la grand-mère de mon ami, seule sur son rond-point à Boulogne, et je me suis dit, alors quelque chose de très profond avec des violons derrière. Est-ce que cette canicule ne nous permettrait pas au fond, les amis, de faire le plus beau des voyages? Celui de la solidarité, celui de la main tendue vers autrui. Souvent on rêve de s'envoler pour le bout du monde alors que la plus grande des aventures est peut-être à l'autre bout du couloir. Vos plus belles rencontres, vos plus beaux fous rires sont à l'autre bout du couloir, comme cette mamie de mon ami qui n'a plus vraiment toute sa tête et qui est persuadée que Brigitte Macron est chanteuse de rock depuis qu'elle est tombée sur un concert de Iggy Pop à la télé. Oui, comme moi les amis, veillez sur votre prochain. Les personnes âgées bien sûr, mais aussi les plus faibles, les enfants et même les titulaires de claquettes chaussettes. Cet été, le plus beau des voyages est celui que vous ferez vers l'autre pour aller boire un coup en happy hour, évidemment. Alors tout ça c'était un peu n'importe quoi, mais en vrai ça pourrait être vachement sympa.
Mais oui, ça pourrait être vachement sympa, une happy hour. Ouais.
Bah oui.
Mais pas allô? Oui, allô. Oui, happy hour, allô.
Ouais. On doit s'amuser avec vous, Eva.
On doit s'amuser, bien sûr. Demandez à Olivier Poussel-Dispressal et même à Alex Good. Ils me connaissent en dehors.
Mais moi, je ne bois pas d'alcool et je suis toujours l'oubli de l'Happy Hour.
C'est vrai.
Je trouve ça scandaleux. Il n'y a pas d'Happy Hour sur les sodas.
Sur les cocktails sans alcool,
oui,
ça arrive.
Oui, les cocktails sans alcool.
Oui, c'est vrai que ça arrive parfois.
Mais le sans alcool est souvent plus cher que l'alcool.
Oui, c'est vrai. Avec modération, l'alcool, on vous le rappelle. Merci beaucoup, Ben H. On se retrouve lundi.
Merci à vous.
Alex Good, en préparant cette émission, vous nous avez parlé de la Vendée parce que vous y passiez vos vacances quand vous étiez enfant. On est d'accord?
Toutes les vacances.
Voilà.
Et ça, c'est moins fun.
Eh bien, départ pour la Vendée.
À la Toussaint,
en
février, les Sables d'Olonne, c'est Amityville.
Voilà. Eh bien, on va parler de Vendée en été. Départ pour la Vendée dans quelques minutes sur Europe 1. Il est 10h et vous êtes sur Europe 1. Le temps de faire un point sur l'actualité avec vous, Sophie Tussaud. Bonjour Sophie.
Bonjour Eva, bonjour à tous. Emmanuel Macron se trouve depuis hier soir dans sa résidence d'été au fort de Brégançon pour y passer des vacances. Et après le président, ce sont les ministres qui partent ce soir en congé. Alors où vont-ils aller et que vont-ils faire? Adrien Beck nous dit tout.
Si les dossiers ne doivent pas rester loin, les ministres entendent bien souffler un peu sans trop s'éloigner de Paris, demande de l'Élysée. Alors cap au sud, pour la plupart, le Pays Basque pour Bruno Le Maire et Didier Guillaume, même si le ministre de l'Agriculture prévoit des déplacements en cette période de sécheresse. Vacances et déplacements aussi pour Agnès Buzyn qui séjournera en Corse, où elle pourra d'ailleurs croiser Marlène Schiappa et sa collègue à l'écologie Elisabeth Borne. Entre Var et Pyrénées, le secrétaire d'État Julien de Normandie profitera de ce répit pour regarder la série Tchernobyl quand Jean-Michel Blanquer emportera dans sa valise de la littérature sud-américaine. Direction la Bretagne pour le ministre de l'Éducation, pas très loin de sa collègue des sports, Roxana Maracineanu, qui partira dans un camping du Cotentin. Si la France reste la destination privilégiée, certains ministres s'envoleront pour la Grèce, Sébastien Lecornu, Emmanuel Wargon, quand le ministre de la Culture, Franck Riester, lui fera du voilier en Méditerranée. Retour à quai impératif avant le 21 août, date du Conseil des ministres de rentrée.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Il n'y a plus aucun département en vigilance rouge à la canicule, ce qui ne veut pas dire pour autant que la vague de chaleur est terminée. 31 départements de l'Est et du Centre sont toujours en vigilance orange. Cette vague de canicule a de nombreuses conséquences, notamment des incendies dans des régions d'ordinaire épargnées par les feux de l'été. Plusieurs milliers d'hectares sont partis en fumée en Normandie. Dit dans le centre, les Hauts-de-France et en Lorraine. Dans l'heure, 8 foyers sont toujours actifs, mais maîtrisés. C'est aujourd'hui que les anciens salariés de Whirlpool sont fixés sur leur sort. Le tribunal de commerce d'Amiens doit se prononcer sur les offres de reprise de WN. 180 salariés sont concernés. En parallèle de cette décision, des interrogations sur la manière dont l'argent public a été utilisé. 10 millions d'euros en provenance de l'État et de Whirlpool. L'audit rendu par Bercy a été publié hier. Des zones d'ombre subsistent toujours sur 179 000 euros. Écoutez le syndicaliste CGT Antonio Abruñosa.
Aujourd'hui, on voit très bien qu'il manque de l'argent. Je pense qu'il y a même plus que cette somme-là qui suscite des réactions. Nous, on attend de l'avoir, l'audit en main propre. On veut être sûr, au centime près, de où est-ce qu'est passé l'argent. L'argent qui a été utilisé, on veut savoir où il a été utilisé. Sur quelles conditions il a été utilisé. Il y a des salaires qui ont explosé. Enfin, c'était vraiment des très gros salaires. Alors que les gens, ils ne faisaient rien. Ils étaient dans des bureaux en train d'attendre que la journée se passe. On ne fabriquait rien. On n'entrait rien. On ne sortait rien. Il n'y avait rien qui se passait dans l'usine. Donc aujourd'hui, oui, on est super inquiet. On veut savoir ce qui s'est passé. Donc on veut nommer un cabinet pour venir faire une expertise de tout ce qui a été dépensé et regarder les comptes. Nous, on va aller jusqu'au bout et on veut savoir au centime près où est-ce qu'il est passé. L'argent qu'il avait eu dans ses mains, c'était pour sauver l'entreprise et sauver les salariés qui étaient dans l'entreprise. L'argent appartient à l'entreprise et appartient aux salariés.
Le syndicaliste CGT Antonio Abruñosa au micro européen de Claudia Bertram. La célèbre maison de prêt-à-porter Sonia Riquel a été liquidée hier. 131 salariés perdent leur emploi. 3 ans après la disparition de sa créatrice, aucun repreneur n'a été trouvé. La disparition hier soir du journaliste d'investigation Pierre Péan. Pierre Péan avait notamment sorti en 1979 dans le Canard enchaîné à l'affaire des diamants de Bocassa qui impliquait Valéry Giscard d'Estaing. Il avait également dévoilé le passé pétiniste de François Mitterrand avant son action dans la résistance. Pierre Péan avait 81 ans. La 19e étape du Tour de France, aujourd'hui une étape courte de 126,5 km et 100% savoyarde entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. Point fort aujourd'hui, l'ascension du toit de la Grande Boucle, le col de l'Iseran. Hier, l'étape, la première dans les Alpes, a été remportée par le Colombien Nairo Quintana. Julien Alaphilippe, de son côté, porte toujours le maillot jaune. Allez, une idée de sortie en famille à présent avec le spectacle de cirque Dans ton cœur. C'est la toute dernière création de la troupe Accor et Accro. Elle est en tournée et pose ses valises à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche à Puget-Teniers dans les Alpes-Maritimes. Écoutez le reportage de Diane Chenouda.
Un spectacle inouï d'acrobates musiciens qui enchaînent les prouesses et scènes de théâtre burlesque sur le quotidien d'un couple. avec Claire Aldaïa, la voltigeuse, héroïne du spectacle.
Ça parle du désir, ça parle de l'amour, ça parle des peurs, tout ça mis en exergue par le risque qu'on prend à chaque fois avec l'acrobatie, parce qu'on risque vraiment nos vies, il y a des vraies prouesses techniques.
Incroyable performance de cet acrobate qui multiplie les saltos, le téléphone d'une main, biberon de l'autre et voltige du frigo à la machine à laver.
C'est vrai que sur cette scène-là, je me dis des fois que si j'étais un robot, ça serait plus facile. Parce que c'est vrai que voilà, faut pas se laisser aller à penser trop à l'acrobatie parce qu'on oublie de prendre le biberon ou le micro-ondes. Et tout ça en ayant l'air de marcher normalement dans une cuisine alors qu'en dessous de moi, il y a des hommes qui sont sans arrêt en train de me lever, de me porter, de m'emmener, de me déplacer de meuble en meuble.
Des trouvailles et une poésie qui transporte le public.
Je suis heureuse, ça m'a fait du bien.
Ah, moi aussi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. C'est un magnifique spectacle. Faut aller voir. On sort avec la banane et la pêche. Ça fait beaucoup de bien.
Voilà un spectacle qui a beaucoup plu à Diane Chénouda et un spectacle dont Europe 1 est partenaire d'ailleurs, dont ton cœur sera en septembre à Mâcon et à Aix-en-Provence.
Merci beaucoup Sophie Tussaud. On refera un point sur l'actualité aux alentours de 10h58. Passez un très bon week-end.
Europe 1. 9h, 11h, le Club de l'été.
C'est la deuxième heure de ce Club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h, encore une heure pour partir en Vendée, faire un petit tour des festivals et évoquer quelques gourmandises. Tout cela en présence de notre invité, l'animateur Alex Good, qui signe la mise en scène de deux pièces, Le piano perd les pédales, avec Adrien au théâtre Le Mélo d'Amélie avant une reprise au Grand Point Virgule, et puis Ménopause qui cartonne au théâtre de la Madeleine.
Et qui du coup joue tout l'été. On devait jouer jusqu'au 11 août, mais on va jouer jusqu'au mois de septembre et on va sûrement continuer après aussi. Voilà.
C'est une très bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, n'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invité. Lise Pressac, direction la Vendée, donc ce matin, et on va où exactement?
Dans les jardins de William Christie, c'est un chef d'orchestre franco-américain.
Et Olivier, on déguste quoi dans ce coin de France?
Eh bien, je vous emmène d'abord les pêchés, les sardines et ensuite les mettre en boîte. Ah ben, je l'attendais, celle-là.
C'est même pas moi qui ai pensé à ça.
Non mais quelle réactivité notre réalisateur
quand même depuis... Qui est au taquet.
Je crois qu'Eva n'assume pas.
Non, moi je n'aurais jamais osé mettre les sardines, c'est tellement évident.
Voilà. Bah écoutez, à défaut de les écouter en entier, on les dégustera tout à l'heure.
9h, 11h, le Club de l'été sur Europe 1, Eva Rock.
Alex Good, je vous propose de monter à bord de notre machine à remonter le temps, alors qui fonctionne uniquement en vibration musicale. Vous allez tout de suite comprendre. Okay. Est-ce que vous savez, par exemple, quelle chanson tournait en boucle en 1975, l'année de votre naissance? Été 75 en France, qu'est-ce qu'on pouvait chanter?
Aucune idée. Ça devait être du Claude François ou des trucs comme ça.
Non, mais je suis sûre que vos parents écoutaient ça.
Ah bah oui, tu voudras quand tu voudras, évidemment. Tu voudras
quand l'été indien, Jodassin.
Eh oui, je connais par cœur.
Eh oui, c'est bien.
Et l'on s'aimera encore.
Ah oui, c'est bon.
Ah, vous pourriez faire chanteur.
L'amour sera mort.
On va vraiment vous inscrire à N'oubliez pas les paroles.
On a appris un truc passionnant dans le Club de l'été cette semaine avec l'un de nos invités. C'est que quand on prend cette mélodie, qu'on la joue à l'envers.
Oui.
C'est Alex Jaffré qui nous a raconté
exactement.
Ça.
Exactement. Eh bien, ça donne la fameuse chanson de Guy Marchand.
Non, c'est
Destiné.
C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, Olivier.
Si, là, ça ressemble. Maintenant que tu le dis, Destiné.
Je suis pas sûr que ce soit
Jaffré.
Moi, je pense que c'est celle-là, jouée à l'envers, qui donne Destiné.
T'as raison, c'est très proche.
On va vérifier tout ça. Parce que je ne me souviens plus.
Je crois que c'est trop bien, moi.
En 2000, Alex Good, vous prenez vos premiers cours de théâtre au cours Simon.
Exactement, j'étais jeune, j'étais frais.
Vous rêviez acteur?
Pas du tout, ah non, pas du tout, j'avais pas du tout prévu de faire ça. À l'époque, je bossais dans le jeu vidéo, où je travaille encore aujourd'hui d'ailleurs. Je serais dans le jeu vidéo et mon rédacteur en chef de magazine était un petit peu, comment dire, âgé et il n'avait pas encore connu l'amour.
Ah.
J'étais complètement hétérosexuel à cette époque. Et je l'ai amené au cours de théâtre pour le décoincer. Et le prof de théâtre a dit faites une scène vous aussi, parce que sinon votre ami, il ne va jamais y arriver. Quoi. Et donc, on a chacun passé un petit texte. Et à la fin de mon texte, il a dit c'est très drôle, ça fait combien de temps que vous faites du théâtre? J'ai dit ça fait 2 minutes 30. Il m'a dit vous arrêtez tout ce que vous faites, vous êtes comédien. J'ai dit je ne vais pas arrêter tout ce que je fais, parce qu'à l'époque, j'avais très très bien mis dans le jeu vidéo. C'était l'époque où le jeu vidéo rapportait de l'argent, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ce truc-là. J'étais dans la presse jeu vidéo, pas loin de là où tu étais aussi dans la presse,
chez
nos amis de Lagardère. Et du coup, je suis quand même allé, ils ont insisté, ils m'ont appelé tous les jours, machin et tout. Donc j'y suis allé après tous les soirs. Et au bout de 6 mois, j'ai tout laissé tomber, sauf le journal de Mickey, où je travaille encore aujourd'hui, dans le jeu vidéo. Et je me suis lancé dans le théâtre. Et puis après, il est arrivé ce qui est arrivé. Quoi.
Alors en 2000, il y a une chanson qui n'arrêtait pas de tourner pendant l'été aussi. C'était ça.
Ah bah oui. C'était en 2000, ça. Vous vous rendez compte? C'était il y a 20 ans quand on est
venu.
Oh,
à
Alors enfin, Dieu.
Les jeunes qui nous écoutent peuvent se dire mais c'est Claude François.
Mais oui,
pas du tout.
Exactement. Et enfin, en 2009, Alex Good, vous arrivez sur M6, début d'une très grande et belle aventure télé pour vous. Alors à la radio, d'après vous, moi je me souvenais absolument pas de ce morceau. 2009, on chantait ça.
Alors là, c'était le
on
tube
est d'accord,
ça
ouais.
Ah oui. Ah non,
Pitbull,
je ne sais même pas ce que c'est.
I want you.
Ah, c'est Pitbull ça.
Ouais.
Ah oui. Il a du chien, mais c'est
ouais,
pas terrible.
C'est ça, ouais. Alors moi, je me souvenais absolument pas.
Ouais.
Comment vous occupez vos voyages entre Paris et Las Vegas où vit votre fils? Vous écoutez de la musique, vous faites des jeux vidéo, vous lisez, vous faites
alors,
quoi?
Alors en général, je vais te dire, c'est bon,
vous dormez.
Je dors. Très non, pas du tout. Au contraire, alors bien au contraire, c'est le seul moment de la vie, parce que je voyage avec Air France, et Air France n'a pas le Wi-Fi, n'a rien. Et du coup, c'est le seul moment de ma vie où mon téléphone ne m'envoie pas 44 messages à la seconde. Donc,
c'était
du coup,
plutôt agréable.
Je bosse. Voilà. Je prends mon ordi.
Vous écrivez.
Et j'écris, je travaille, je regarde. C'est un bonheur, parce qu'on ne se rend plus compte à quel point on est esclave de tous ces trucs-là.
On est bien d'accord.
Mais c'est vrai que du coup, l'avion, c'est le moment de détente, quoi.
Voilà. Et ben c'est parfait. Dans quelques minutes, on parle culture avec Lise Pressac et on s'envole évidemment pour la Vendée. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Nous sommes toujours en direct. Il est 10h14 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité Alex Good. Alors,
et
Olivier Pouls, qui a toujours raison.
Est-ce qu'il y en a un qui écoute convenablement ses invités? Est-ce qu'il y en a un qui écoute vraiment ce que disent les invités?
Faut me fatiguer.
Eva, j'attends les excuses publiques
je vous
devant
ai...
les millions
je vous
et
présente,
millions.
Je vous présente mes excuses. Vous aviez raison, c'était
vous
bien
raison.
L'été indien de Joe Dassin dont nous a parlé Alex Jaffré, qui effectivement, quand vous prenez cette même partition et que vous la mettez à l'envers, ça donne.
Franchement, ça se
voit.
Voilà.
Même Alex Good, l'invité, ne me défend pas et défend Olivier Pouls. Qu'est-ce que vous voulez que je devienne dans cette émission?
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Alex
c'est
Good,
pas grave, c'est
on va rejoindre dans quelques minutes la Vendée.
Façon,
mais
ton truc, c'est le rock, toi, c'est pas la...
Non, c'est le jazz. Même
mais
pas, ça n'a rien à voir avec mon nom de famille, vous vous rendez compte?
Eva Jazz. Voilà.
Ouais. Non, Eva
le
Swing.
Jazz.
Eva Swing.
Et toi, c'est le pulse de l'action.
Lise Pressac va nous livrer son journal de la culture, tout beau, tout chaud. Lise, on commence par un appel aux dons lancé par l'Opéra de Paris.
Oui, poussé par une baisse des subventions publiques, l'Opéra a décidé de se lancer dans le financement participatif pour acheter des chaussons aux ballerines si les danseuses utilisent environ 10 000 paires de pointes chaque saison. Pour un coût d'environ 400 000 euros par an. Les pointes qui sont adaptées sur mesure pour chaque danseuse ont une durée de vie limitée. Une danseuse étoile peut en porter jusqu'à 3 ou 4 paires par représentation. Et pour assumer ce coût, l'Opéra a donc lancé un appel aux dons. 60 euros permettront d'acheter une paire de pointes. 300 euros,
c'est très
une
cher,
paire
hein.
de bottes d'hommes sur mesure. 5 000 euros, c'est 5 représentations de Raymonda de Nureyev, pointe et demi-pointe. Et 10 000 euros, c'est un an de pointe pour une danseuse étoile. Comme dans tout financement participatif, il y a des contreparties en fonction du niveau de votre don. Cela peut être une visite privée du Palais Garnier, une visite des ateliers de confection des costumes, une paire de pointes dédicacées ou encore une invitation à une répétition du ballet. Vous pouvez participer à ce projet qui est intitulé En pointe sur opéraparis.fr.
C'est pas mal ça, c'est intelligent.
Oui, mais en même temps, c'est un peu triste que ça soit, qu'on soit obligé de faire ça parce qu'il y a une baisse des subventions publiques quand même. Je veux dire, c'est leur outil de travail aussi aux danseuses, quand même.
Oui, oui, mais c'est le monde d'aujourd'hui.
Oui, voilà. Mais après, participer à l'opération En Pointe. Lise, vous nous emmenez maintenant visiter une exposition qui est consacrée à Vargenville-sur-Mer en Normandie.
Un atelier sur les falaises, c'est le sous-titre de cette exposition qui se tient au Musée des Beaux-Arts de Rouen et qui met en parallèle les œuvres de Georges Braque, Joan Miró, Alexander Calder et de l'architecte Paul
monde, hein.
Nelson. En 1928, ce Paul Nelson fait découvrir le village de Vargenville à Marcel et Georges Braque. Le couple achète une maison et Braque y passera des séjours prolongés pendant plus de 30 ans. Le paysage normand l'inspire, il se met à peindre des motifs plus ruraux comme des vélos ou des chaises de jardin et il utilise des matériaux naturels pour ses sculptures. Autre artiste inspiré par Vargenville-sur-Mer, le sculpteur américain Alexander Calder et le peintre catalan Joan Miró qui passent leur été en 1937. Ils contribuent à la maquette de la maison suspendue de Paul Nelson. Miró réalisa même une fresque monumentale dans son salon. Miró et sa famille qui reviennent à Vargenville en 1939 et y restent un an alors que la Première Guerre mondiale vient d'éclater. C'est à Vargenville que Miró réalise Les Constellations qui est l'une des séries les plus emblématiques de son œuvre.
Toile magnifique.
Oui, l'exposition Braque, Miró, Calder, Nelson, Vargenville, un atelier sur les falaises est à découvrir jusqu'au 2 septembre au musée des Beaux-Arts de Rouen.
Et puis enfin, on va écouter de la musique dans une foire au vin.
Oui, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Et dès qu'on dit vin, voilà.
Dès qu'on dit vin, Olivier Pousse réagit.
C'est redressé, mais comme un seul homme.
Ah, mais je pense à lui chaque jour dans ce journal. C'est devenu un rendez-vous incontournable à Colmar, troisième foire de France après celle de Paris et Marseille. Elle accueille 350 exposants pendant 10 jours. Et sa particularité, c'est qu'elle accueille en même temps un festival de musique dans un théâtre de plein air de 10 000 personnes appelé La Coquille, avec ce soir en ouverture Big Flo et Oli.
Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Ah, elle aurait
certains
dû
concerts
y aller.
Sont déjà complets, comme ceux de Soprano, d'Orelsan et Edith Preto et Sting, mais il reste des places pour Murray Head et Coq Robin le 2 août. Eros Ramazzotti lundi.
Ah, ça c'est pour Olivier Pouls.
Ah, j'adore. Ah oui.
On va y aller ensemble, tiens.
Tous les deux.
Ouais. Bah, prenez vos places.
En dégustant quelques verres de Riesling.
Moi, je boirai du soda.
Et puis, Eva, nous, on ira demain voir M.
Mais oui.
Il y a toujours une programmation incroyable au Festival du Vin de Colmar.
Ouais, c'est vrai, festival qui se terminera le 4 août par un concert de Patrick Bruel. Le Festival de la Foire au Vin d'Alsace, c'est au Parc des Expositions de Colmar.
Ah, on pourrait y aller, on pourrait faire une descente, Olivier Pouls. Hein
bah, une descente. Oui.
C'était un petit peu fait exprès.
Oui, j'ai bien compris.
Alex Good, en parlant de musique, nouvelle parenthèse. Nouvelle parenthèse, une parenthèse enchantée grâce à Lenny Kravitz. Elise Pressac, donnez-moi le titre de ce morceau que nous allons écouter sur Europe 1.
It ain't over till it's over.
Oh yeah!
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Eva Rock.
Kravitz sur Europe 1, dans un instant, départ pour la Vendée.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Et il est 10h23 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été. Vous êtes les invités de ce club, hein, ouvert tous les matins de 9h à 11h. Nous attendons vos réactions, vos questions à notre invité du jour, l'animateur de télé, mais aussi metteur en scène et producteur, Alex Good. Alex Good, vous avez donc passé vos vacances enfants en Vendée.
Bah même plus que oui, c'était carrément tout le temps, parce que c'était en fait mes grands-parents étaient au Sable-d'Olonne.
Ouais.
Et donc j'avais beaucoup de chance, puisque j'étais là-bas tout le temps, toutes les vacances. Voilà. Après, c'est vrai que l'hiver, c'était un peu plus dur quand t'es jeune et qu'il n'y a personne. C'était plus amusant l'été parce que c'est la folie. Mais c'est vrai que voilà, j'y étais toutes les vacances, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Voilà.
Vous êtes allé au Puy du Fou 50 fois ?
Pas 50 fois, mais j'y suis également effectivement allé. Voilà, mais on était bien au sable parce que bon, c'était quand même, tu vois, moi j'adorais être sur les rochers. Je passais mes journées sur les rochers parce que je déteste nager, je déteste la plage, j'aime pas le sable.
Mais vous approchez quand même de la mer.
Oui, ah oui, oui, j'aimais bien. En fait, j'aimais bien l'impact des vagues sur les rochers. Je trouvais ça très.
J'allais vous demander une odeur de la Vendée. Quelle est la première odeur qui vous revient ? C'est l'odeur de la mer, l'iode.
Oui, c'est ce truc-là. Oui, c'est vraiment d'être au bord de la mer. Voilà.
Est-ce que le fait de partager votre vie entre Paris et Las Vegas vous empêche de visiter d'autres pays ou vous faites quand même quelques petits voyages ailleurs ?
Non, tu vois, là j'ai passé le week-end en Sicile. Je connaissais pas la Sicile. Je l'ai passé 2 jours en Sicile pour me vider la tête parce que là, j'avais beaucoup travaillé depuis quelques mois. Mais je suis très bien à Paris, je suis très bien à Las Vegas. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, le problème de Las Vegas, où j'ai vécu quand même 8 ans, c'est que tu es un peu spolié après. C'est-à-dire qu'il fait beau tout le temps, tu t'amuses quand tu veux, tu te reposes comme tu veux, parce que tu as quand même les plus beaux parcs naturels qui sont à
une heure et demie en voiture,
tu as tout à côté. Tu as la ville la plus folle du monde et les plus beaux parcs naturels du monde au même endroit. Donc, moi, j'aime pas la mer, mais j'ai la piscine. Donc, c'est après, quand tu vas ailleurs, tu te dis bon, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, bah, il fait beau, ouais, d'accord, c'est comme Las Vegas.
Vous aviez envie de revenir à chaque fois.
C'est très compliqué parce que tu t'amuses moins, entre guillemets, ailleurs, parce que t'es la ville la plus débile du monde pour t'amuser quand même, entre les spectacles, les restaurants, les jeux, les casinos, les attractions, trucs de fou. Donc, c'est un peu spoliant. Alors, j'aime bien, tu vois, quand je suis allé aux Philippines pour Pékin Express, j'ai découvert les Philippines, je trouvais ça génial. Voilà,
vous étiez candidat. Hein.
Ouais, j'étais candidat. Ouais. Ouais, j'ai survécu. Mais j'aime bien voyager. Mais c'est vrai que bon, déjà, je suis vieux, j'ai fait beaucoup de pays à mon âge, mais je suis bien dans mon petit. Et puis je voyage beaucoup. Tu vois, c'est que je vais à Las Vegas quand même toutes les 2-3 semaines.
Oui, donc le temps il est restreint de toute façon pour aller ailleurs.
À un moment donné, je peux pas. Voilà, je préfère être avec mon fils que être n'importe où ailleurs.
Avec Lise Pressac, on voyage vers la Vendée et vers où exactement, Lise ?
On va aller à Tiré, c'est dans le sud du département, dans les jardins de William Christie, chef d'orchestre franco-américain, spécialiste de musique baroque. Nous sommes en ligne avec Henri-Claude Cousseau, qui est conservateur général du patrimoine des jardins de William Christie. Bonjour Henri-Claude.
Bonjour.
Bonjour.
Alors racontez-nous comment William Christie s'est retrouvé ici, pourquoi il a décidé d'y poser ses valises.
Écoutez, ben c'est une longue histoire. Il est arrivé en Vendée où je l'avais invité pour un festival de musique ancienne dans les années 70, à la fin des années 70. Et puis un jour, je lui fais visiter les environs. Il tombe amoureux d'une vieille maison abandonnée, enfin un logis vendéen, du tout début du XVIIe siècle. Et là, il a très vite décidé de l'acheter. Cette maison était à vendre. Et puis, comme il avait un très vieux rêve, c'est-à-dire de créer des jardins, parce qu'il est aussi jardinier, il est musicien, mais il est aussi un grand jardinier, eh bien voilà qu'il a acquis cette maison et des terrains autour, et que dès 1985-87, il a commencé à y installer un immense jardin qui est une sorte de, comment dire, d'hommage à l'histoire des jardins, l'histoire des jardins baroques, naturellement.
Oui, vous le disiez, ce jardin illustre ses deux passions, à la fois la musique et justement ses jardins. C'est inspiré de jardins italiens, français, à quoi il ressemble ?
Écoutez, c'est une énorme, on dirait, une espèce de citation, d'une sorte d'encyclopédie des jardins baroques. Alors il y a des références anglaises, italiennes, comme vous l'avez dit, nordiques, françaises surtout, car le jardin est quand même installé sur une dizaine d'hectares. Et c'est un jardin à la fois qui n'est pas une reconstitution, il n'y a jamais eu de jardin dans cette maison, mais c'est une évocation de ce qu'est pour lui tout d'abord le jardin baroque, à titre de spécialiste de l'art baroque, mais c'est aussi une sorte de promenade dans l'histoire des jardins.
Et l'été justement, c'est aussi un lieu où on accueille un festival de musique où vous accueillez beaucoup de monde aussi.
Alors on accueille 10 000 personnes chaque été dans cet endroit, qui est un lieu de musique, c'est un lieu pour les jardins, mais c'est aussi un lieu pour la musique, car il y a toujours eu une relation, au fond, entre les jardins et la musique dans la culture occidentale. Et en fait, il a conçu dès le départ ce jardin pour être un réceptacle, en quelque sorte un lieu musical. Et d'où la réussite de ce festival, parce que quand le public vient à tirer, il est non seulement mis en relation avec l'histoire des jardins et la beauté des jardins, la culture des jardins, mais aussi avec ce que les jardins, en quelque sorte, portent en eux dans le secret de leur frondaison, c'est-à-dire des airs d'opéra, de la musique de chambre, de la musique ancienne. Enfin, vraiment, il y a une relation intime entre musique et jardin.
Merci beaucoup Henri-Claude Cousseau d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. J'ai les photos de ce jardin sous les yeux, c'est absolument magnifique et effectivement ça donne envie de venir écouter
plus 4
de la musique. Voilà. Vous avez gagné du monde et je rappelle que vous êtes le conservateur général du patrimoine des jardins de William Christie. Toutes les infos sont à retrouver sur le site d'Europe 1. On se retrouve dans quelques minutes, toujours en direct sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du Club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Poul. C'est notre invité ce matin et l'inépuisable et hyperactif Alex Good qui n'arrête pas de faire des choses sur son portable pendant qu'on se parle en même temps. C'est vrai, vous faites trois trucs en même temps en fait.
Oui,
tout
regarde
le temps.
Une série aussi en même temps.
Mais oui.
Non, je regarde pas de série.
Est-ce que vous êtes gourmand, Alex?
Alors écoute, ça dépend de quoi on parle. Mais là, j'ai décidé qu'il était temps que. Parce que comme j'ai beaucoup, beaucoup travaillé jusqu'à des heures indues, je me faisais livrer de la nourriture pas très correcte. Donc là, j'ai décidé d'entamer à partir du 20 août un régime sec pour être au top de ma forme fin octobre.
Vous avez une Madeleine de Proust ou pas quand même?
Pas du tout.
C'est vrai?
Pas du tout. Non, si peut-être les crêpes de ma maman qui faisait des crêpes avec de la bière dedans. C'est bizarre alors que je bois de l'alcool.
Oui, mais vous ne le sentiez pas. C'était la levure de bière, c'est pour
oui,
la faire.
Mais
pour
du coup, elles ont un goût particulier. Qui n'est pas le même goût.
Oui, ça aromatise un petit
oui,
peu.
Oui, exactement. Et du coup, dès que je goûte des crêpes à la bière, tac, tiens, ça me fait ah, maman.
Alors, en Vendée, on mange beaucoup de bons produits de la mer et pas simplement. On a reçu un message de Thierry Moreau qu'on embrasse très fort, qui connaît très bien la Vendée et qui nous dit en dehors des sablaises, les fameuses sardines, il y a aussi le préfou, la brioche vendéenne, la gâche à ne pas manquer de déguster. A visité aussi le château de Terre-Neuve. Il nous dit que c'est absolument magnifique. La team Vendée,
c'est sûr.
Il le dit. Olivier Pouls, vous avez choisi de parler de quel produit ce matin?
J'ai décidé de vous emmener prendre la mer puisque vous aimiez être sur les rochers à regarder la mer. Peut-être voyez-vous passer ces bateaux qui allaient pêcher les sardines, parce qu'il faut savoir que la Vendée a la chance d'avoir ce fameux port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui est le port, la capitale absolue de la pêche à la sardine. C'est une pratique qui est très ancienne. Depuis le XVIIe siècle, on y pêche ce délicieux poisson plein de vertus.
Et d'oméga 3.
Aussi, quand même. D'oméga
3. Mais vous les mangez. Il faut les manger.
Bon, alors,
c'est l'avantage de la
sardine. Sur les grosses, sardines, on les enlève quand même.
Sur les grosses sardines.
Sur les petites, on peut les garder.
Bien sûr.
Mais bien sûr.
J'ai jamais vu ça de ma vie.
Mais oui.
Mais vous êtes carnivore.
Mais non, pas du tout.
Et donc, ces sardines qu'on peut évidemment manger fraîches en ce moment, on est en pleine saison de la pêche. Et donc, si vous avez un barbecue et des voisins
qui sont tolérants,
griller les sardines, bien sûr. Ou alors, vous invitez vos voisins, c'est quand même plus sympa. Et puis sinon, il y a les petites boîtes.
Les fameuses boîtes de sardines.
Et oui, les conserveries de sardines, spécialité de la région et de Saint-Gilles. Et nous sommes au téléphone avec Guillaume Batardière de l'une de ces conserveries qui s'appelle la Perle des Dieux. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Bonjour Guillaume.
Alors les boîtes de sardines, c'est quelque chose qui remonte au 19e siècle, 1840 je crois, les premières mises en boîte de ces sardines. Ça se perpétue de génération en génération, en tout cas dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Parlez-nous de la spécificité de vos boîtes de sardines.
Qui sont très belles d'ailleurs et vous avez une esthétique qui est magnifique des boîtes de sardines.
Bon, déjà, c'est gentil parce qu'il n'y a que des compliments, donc ça, c'est plutôt
bien.
Donc, du coup, je veux bien continuer l'entretien. Et, alors, par rapport à nos produits, en fait, la marque de fabrique de la société, ce sont les sardines millésimées. Mmh. Alors, millésimées, ça veut dire un peu comme un bon champagne, comme un bon vin, avec une date, une maturation supplémentaire. Vous voyez, on a des boîtes qui remontent jusqu'à 2005. Donc, en fait, avec l'huile qui s'imprègne en fait dans la chair, ça donne quelque chose de très fondant, très goûtu, avec des goûts particuliers en fonction de l'année.
Donc oui, parce qu'il faut préciser, que la sardine est, avec le vin, l'un des seuls produits comestibles qui se bonifie avec le temps. Et c'est incroyable. Peut oublier des boîtes de sardines dans ses placards.
Oui, alors un détail près, c'est qu'il y a marqué sur la boîte qu'il faut la retourner tous les 6 mois. C'est pratique. Ouais. T'imagines
alors ça, c'est l'idéal.
Faut se mettre une alerte.
Attention, il faut que je retourne mes boîtes de sardines le 12 septembre.
Il ne faut pas se louper. C'est sûr qu'après, ça a un impact énorme sur le produit. Non, non, je rigole. Mais après, c'est vrai que dans l'idéal, c'est de les remuer tous les 6 mois comme ça. Et puis, ça peut se garder une dizaine d'années.
Mais pourquoi, excusez-moi, mais ça change quoi de changer le sens?
Bah en fait, ça permet en fait à l'huile d'olive, tout simplement, d'imprégner l'intégralité de la chair. Et que ça ne soit pas que d'un côté, et que
ah,
toute la chair, l'intégralité...
Ah, c'est de l'huile d'olive là qu'on voit dedans, là?
Et oui, c'est de l'huile d'olive, Alex Good.
Ah, je savais pas de l'huile d'olive.
Et oui, c'est de l'huile d'olive.
Je découvre des choses.
Mais alors, ce que vous faites aussi avec, avec votre entreprise, c'est que vous aromatisez tous les accompagnements et des sardines en question, on est d'accord?
Ah, tout à fait, nous on a une large gamme de produits, ça va des sardines sans huile, aux sardines grillées, je vous entendais parler de tout à l'heure des sardines grillées aussi, de sardines à poêler, donc vous voyez, il y a plein de sortes différentes.
Et des aromates et aussi après, différents, hein, c'est ça?
Et des aromates différents, tout à fait.
Et voilà. Le secret pour avoir des sardines en boîte de qualité, c'est évidemment d'abord d'avoir un produit de base qui soit excellent, et puis surtout c'est d'aller très rapidement pour la mise en boîte.
Exactement, nous on a l'avantage aussi d'avoir notre conserverie qui est située à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc du coup en face en gros du port de pêche, et en fait nous, la perle des dieux, nos poissons sont emboîtés frais, d'accord. Donc il n'y a pas de congélation ou autre, on est directement sur les produits frais qui sont emboîtés à main, tout simplement avec les mains de des personnes de la conserverie, coupés à la main, viscérés aussi à la main, etc. Donc c'est vraiment, il y a un total respect du produit. Il y a un total respect du produit.
Et nous, il y a une bonne nouvelle, c'est que ici,
on est en train d'égoutter,
voilà,
figurez-vous.
On vient d'ouvrir une boîte.
Mais oui, mais de votre entreprise, la perle des dieux. Ouais, écoutez,
de chez vous.
C'est un millésime 2017. Alors, je ne sais pas si 2017 était un grand millésime en sardine. En tout cas, ils ont presque 2 ans de boîte.
Exactement.
Il y a une
ça.
Texture qui est magnifique et ça commence à sentir bon dans le studio.
Ça sent la sardine, comme dit Alex Good. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été en direct avec nous ce matin.
Merci à vous tous.
Je rappelle
merci.
Que vous travaillez pour l'entreprise La Perle des Dieux. Et les boîtes de sardines sont absolument magnifiques.
Ouais,
c'est des œuvres d'art.
C'est une œuvre d'art, d'ailleurs.
Mais oui, on va continuer à parler de cuisine, de gastronomie, de patrimoine.
On va déguster des sardines.
Mais oui. Et puis, on va surtout parler de votre vrai faux à la fin de l'émission. Je vous propose de partir à la découverte de 3 nouvelles destinations grâce à Espressec, à tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1. Elles sont bonnes, ces sardines, hein, on est en train de déguster, c'est délicieux. Le club de l'été donc se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec 2 experts que tous les offices de tourisme et grands restaurants rêvent d'embaucher. Olivier Pouls et Lys Pressac.
C'est fou le nombre d'appels qu'on a par jour,
mais oui.
D'ailleurs, Olivier. Hein.
Mais oui, Alex Good est notre invité ce matin. Alex, chaque matin, Lys nous trouve 3 bons plans et je pense que ça va vous intéresser. Quel est le thème du jour, Lys?
Ah bon, les 3 expos à faire avec les enfants.
Ah bah oui, bah voilà. C'est bien du coup.
Les petits et les grands enfants.
Quel âge a votre enfant?
Il a 4 ans et demi là, mon petit.
4 ans et demi. Ah, ça peut être un peu difficile pour...
Non, on va trouver.
Il voit tout, il a peur de rien.
Voilà, on débute par le musée des Confluences à Lyon.
Pour aller voir l'exposition Mini-Monstres, les Invisibles, Pou, Puce, Moustique, Punaise de lit, Tic, Mouche, Acarien... Toutes ces petites bêtes qui nous tournent autour, nous piquent et se gorgent de notre sang.
Arrêtez ce son, c'est horrible.
Mais le son est horrible.
Destinée aux 7-12 ans, l'exposition nous fait basculer dans le monde de l'infiniment petit. Vous allez pouvoir vous glisser dans la peau d'un scientifique et observer ce monde mystérieux avec votre microscope. Enfants et adultes vont ainsi découvrir comment ces parasites tirent allègrement profit de notre corps, quelles prouesses ils sont capables de réaliser, malgré leur taille minuscule, mais aussi les nuisances qu'ils peuvent causer. Et surtout, l'exposition vous fera prendre conscience que ces petites bêtes désagréables pour nous ont aussi un rôle fondamental dans l'équilibre d'un écosystème que nous sommes en train de dérégler. L'exposition Mini-Monstres, les Invisibles est à découvrir jusqu'au 3 mai 2020 au musée des Confluences à Lyon. L'entrée coûte 9€ pour les adultes. Il y a un tarif réduit à 6€ à partir de 17h et c'est gratuit pour les moins de 18 ans.
J'adore le titre Mini-Monstres, les Invisibles. Je trouve
très
bien
mignon.
Joué. Vous nous emmenez maintenant à Arles pour les rencontres de la photographie.
Événement qui n'oublie pas les enfants avec une programmation spéciale jeune public. Je découvre les sons en même temps que vous. Hein. Les enfants de 7 à 11 ans pourront participer à différents ateliers créatifs autour de la pratique et l'analyse
analyse de l'image. Ah, à chaque jour de la semaine, son atelier. Le lundi, les enfants produisent leur propre image afin de comprendre la démarche créative des auteurs. Le mardi, ils jouent les commissaires d'expo en choisissant l'ordre et l'agencement des œuvres. Mercredi, ils découvrent la cyanotypie, c'est l'un des plus anciens procédés photographiques. Le jeudi, c'est un atelier de création surréaliste en images et en mots. Et le vendredi, les enfants créent leur propre carte postale, inspirée de ce qu'ils ont vu à Arles. Les ateliers sont réservés aux 7-11 ans. Le nombre de places est limité à 12. Il faut donc absolument réserver par mail. Chaque atelier coûte 13 euros. Il existe un forfait 52 euros pour les 5 ateliers. Les ateliers ont lieu de 14h30 à 16h30 du lundi au vendredi. C'est jusqu'au 30 août. Et vous pouvez aussi, bien sûr, les emmener dans les différents lieux d'Arles qui accueillent les rencontres photographiques jusqu'au 22 septembre.
C'est quasiment un petit stage, en fait, pour devenir photographe. Enfin, vous nous proposez une exposition pour les enfants à Lille.
Une exposition pour les enfants faite par des enfants. C'est le principe de Momar à la gare Saint-Sauveur de Lille. Tout au long de l'année, près de 10 000 élèves des écoles de Lille, Elem et l'Homme, se sont initiés à différentes disciplines artistiques sur le thème d'Eldorado. Au cours des derniers mois, les enfants ont rencontré des artistes et ils ont peint, dessiné, sculpté autour de ces sujets. Ce sont leurs œuvres qui sont présentées à travers une grande exposition et des ateliers créatifs. Elle s'adresse, cette exposition, aux petits de moins de 6 ans et aux enfants de plus de 6 ans, sans limite d'âge, c'est ce qui est écrit sur le site. Des ateliers et des jeux sont organisés tous les samedis, sont gratuits dans la limite des places disponibles. Demain, par exemple, à 15h, il y a un atelier portrait d'animaux de la jungle avec Eric Avory. L'exposition Momar se tient jusqu'au 1er septembre, c'est à la gare Saint-Sauveur de Lille. Elle est ouverte du mercredi au dimanche de 12h à 19h et l'entrée est gratuite.
Alex Good, est-ce que vous êtes baba devant les œuvres picturales de votre fils?
Oui, parce qu'il dessine
très
bien.
C'est un génie.
C'est un génie. Je pense que c'est le meilleur dessinateur de sa génération.
Est-ce qu'il est fan de super-héros comme vous?
Oui. Oui,
mais est-ce qu'il a le choix de ne pas être fan de super-héros?
Ça, c'est une très bonne question. Car je me suis dit, moi-même, par exemple, tu vois, mon père était fan de tennis. Donc, il m'a mis au tennis à 3 ans. Il voulait que je devienne professionnel de tennis, machin. Et du coup, j'ai devenu quoi? Professionnel de football. Donc, je me suis dit, en fait, il ne faut pas essayer de forcer les enfants à avoir tes passions parce que sinon après ils aiment pas ça. Et en fait c'est lui qui s'intéresse et tout, donc finalement écoute, il est fan de super-héros et je laisse faire. Voilà.
Et donc on vous voit partir au cinéma aller voir les films de super-héros ensemble.
Oui, et pourtant il est petit, mais on est quand même allé voir Spider-Man, mais on a le droit parce que c'est pour tout public.
C'est vrai,
il était hystérique.
Mais ça leur fait peur aux enfants?
Mais lui il a peur de rien. On avait été voir Le Roi Lion, si tu veux, il avait pas peur.
Ah mais il a pleuré?
Non. Oui, c'est triste.
Même pas.
Mais c'est à la mode américaine. Il a une éducation un peu tac. Il fait tout, il voit tout, il fait des acrobaties, des cascades. C'est Indiana Jones, mon fils.
D'accord.
4 ans et demi, mais déjà 17 fractures.
Mais voilà. et puis, on sent bien le papa pas fan du tout de son fils. Tous les jours, Lise, elle nous donne un bon plan aussi pour une application. Et alors là, c'est l'application qui nous permet de nous rafraîchir cet été où que l'on soit dans le monde.
Oh,
alors ça, non, rafraîchir,
non, de l'eau.
Mais qui sont bêtes. Non, mais. Alors, ça peut être de l'eau.
Oui, ça peut être de l'eau.
L'application s'appelle Refill My Bottle, donc
remplis ma bouteille.
Vous trouverez tous les points d'eau d'une ville. Je sais pas ce que je vous ai regardé, Alex Gouche, j'aurais pas dû. Vous trouverez tous les points d'eau d'une ville pour remplir votre gourde. L'idée, c'est de réduire au maximum notre consommation de plastique.
C'est pas comme ça qu'on parle de sa femme.
Et nous inciter à tous avoir une gourde avec nous. Alors, la fontaine la plus proche d'Europe 1 se trouve à 1 km, environ 5 minutes à pied. Alors,
c'est pas vrai, il y en a une juste dehors.
Il y en a une derrière moi.
Non, mais
à l'extérieur.
Oh là là.
À l'extérieur.
Et à Nice, pas beaucoup de fontaines, Eva. Une seule est répertoriée. Alors, sans doute qu'ils n'ont pas tout répertorié. À Nice.
Oui, c'est vachement bien ton appli.
Mais non, c'est partout dans le monde, mais c'est spécial Eva Rock qui vient de Nice.
Mais oui.
Elle se trouve dans le jardin Albert Ier.
Alors, le jardin Albert Ier est très beau, mais vous n'êtes pas obligé de parler de Nice à chaque fois parce qu'on a l'impression.
Moi, j'ai signé un contrat.
D'accord, vous avez signé un contrat.
Voilà.
Bon, toutes les références de tous les contenus dont on parle depuis ce matin, vous les retrouvez sur le site d'Europe 1. Si vous manque une information, vous savez, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1, évidemment, on vous répondra. On attend aussi vos cartes postales. On en a reçu une encore très sympa de Ludwig qui nous en avait déjà envoyé une. Et celle-ci, elle vient. De Bruxelles, où il passe quelques jours de vacances. C'est en hommage à vous, Olivier Pouls. Conseil Mialidi, la fruitière 99 rue du Marché au Charbon, une sympathique cave à fromage avec une cave d'affinage qui propose une sympathique restauration. Bel été à tous, nous dit-il. Merci infiniment pour vos quatre postales, ça nous fait plaisir. Et puis en plus, ça orne notre bureau.
Est-ce Alex que vous savez pourquoi on appelle une fruitière ces lieux où on produit du fromage en Franche-Comté, notamment du comté? Pourquoi est-ce qu'on appelle une fruitière?
Non, je ne sais pas.
Eh bien, tout simplement parce que chaque paysan n'avait pas suffisamment de lait pour faire lui-même du comté, donc il mettait le fruit de leur travail en commun, d'où le nom de la fruitière.
Il faut toujours avoir un petit Olivier Pouls à côté de soi.
Olivier avec nous.
Et voilà. Alex Good, j'espère pour vous que vous n'avez pas trop faim, parce qu'Olivier Pouls, il va commencer à parler de cuisine, enfin il va continuer à parler de cuisine, nos estomacs vont gargouiller. Et pas sûr que la musique apaise notre appétit. Les Enfoirés sont sur Europe 1 avec On Trace.
9h, 11h,
Le club de l'été sur Europe 1,
Eva Rock.
Mille avant nous ont voulu laisser leurs traces, ils s'en sont vus déçus. De belles âmes que le temps efface, Dieu j'en ai connu.
On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins.
C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nous maintenir.
Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain, on gagne. Demain, nos maintenues.
On trace.
Et mille ont échoué. Pourquoi penser qu'on peut mener sa barque sans se faire aider?
On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Aux amis qui en veulent, impossible n'est rien.
C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nos mains tenues.
Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain, on gagne. Demain, nos mains tenues. On trace.
Les Enfoirés sur Europe 1 et dans quelques secondes, c'est la dernière séquence du Club de l'été.
Le Club de l'été, deux heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Et oui, dernière séquence de ce Club de l'été consacré
déjà
à Alex Good. Et oui, Alex Good, dernière recette aussi pour faire nos pique-niques, des festins, de faire de nos pique-niques, des festins multicolores. Mais juste avant, Olivier Pouls, on va revenir sur votre histoire de vrai-faux. Chaque jour, vous faites un fact-checking culinaire. Et aujourd'hui, l'affirmation, c'était de se dire le saucisson d'âne est une spécialité corse. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Vous avez tous déjà voyagé en Corse, peut-être?
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'on vous a proposé du saucisson d'âne?
J'ai vu des trucs passer. On m'a pas proposé, mais effectivement, j'ai vu passer ça, mais je crois que c'est une légende en fait.
C'est une légende. Moi aussi, je suis d'accord avec Eva.
Légende ?
Ben, je sais pas, mais je veux pauvre âne.
Ouais.
Oui, ben, c'est une légende.
Bien.
Non, c'est une légende totale. Ouais. C'est comme les crocodiles dans les égouts à Paris. C'est comme Eva au Macumba. C'est une légende.
Voilà.
C'est quelque chose qu'on ne verra jamais. Non, il n'y a pas de saucisson d'âne en Corse. Ils n'en font pas. Il y a du saucisson classique avec du vrai porc corse. Ils sont rares, malheureusement. Il y a beaucoup en Corse de saucissons dits corses faits avec des porcs qui viennent du continent, voire de plus loin. Quand on achète du saucisson en Corse, on est très prudent sur la provenance et on discute vraiment. Mais il n'y a pas de saucisson d'âne. Les Corses ne mangent pas leurs ânes. Ils les aiment trop.
Il a réponse à tout comme ça.
Oui, il a réponse à tout.
Et l'œuf ou la poule,
Ah oui, l'œuf ou la poule. On pourra le faire la prochaine fois. Non, mais,
l'œuf ou la poule.
L'œuf ou la poule.
Mais pourquoi appeler ça du saucisson d'âne alors?
C'est une légende, tout simplement.
Une sorte de légende urbaine.
Probablement, à une époque, on en a fait un petit peu, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui ne se fait plus du tout. Les Corses aiment trop leurs ânes.
Alors, je parlais des pique-niques parce que pendant la semaine, tous les jours, Olivier Pouls nous a offert une recette pour justement embellir nos pique-niques qui sont toujours un petit peu classiques. Toutes les recettes d'ailleurs d'Olivier sont à retrouver évidemment sur le site europe1.fr. Nous avons parlé de sandwich, de salade, de gazpacho, de cake salé et il nous manquait un dessert.
J'ai tous les fruits de la terre, les plus doux, les plus doux, les plus doux.
Heureusement que Dalida est là.
C'est Dalida, ça ?
Oui. C'est Dalida.
Fiche
Olivier, qu'est-ce qu'on fait avec des fruits pour un pique-nique ?
Bah, pas tous les fruits de la terre.
Non,
on va prendre que des fruits de l'été. Et puis les fruits qui sont un peu l'emblème de l'été, c'est melon et pastèque plutôt.
Ah, la pastèque, alors ça, je ne vais pas en manger. Mais des tonnes.
C'est bon, hein.
Ah bah j'adore voilà. Ça.
Ah bah Olivier, ça rafraîchit. Super recette pour vous, vous allez voir.
Puis surtout, c'est très bon parce que ça contient énormément
d'eau. C'est de l'eau.
C'est de l'eau, c'est très peu calorique. Donc, manger de la pastèque, c'est vraiment, c'est la saison. Moi, je vous propose de faire une petite soupe melon pastèque.
Ah ouais, c'est pas mal ça, ouais. Sur papier.
Alors, oui. Melon et pastèque, vous achetez ou vous avez peut-être à la maison, vous savez, des petites cuillères à faire des boules.
Oui.
Vous voyez ça ? Ben, vous faites des petites boules de pastèque et de melon, hein, oui. Alternativement. Et puis avec les parures, parce que vous n'allez pas pouvoir récupérer toute la chair, donc il va rester forcément un petit peu de chair. Donc vous allez récupérer la chair de melon et un petit peu de chair de pastèque. Vous allez mixer ensemble dans un blender, tout simplement, avec peut-être un tout petit peu d'eau s'il y a besoin pour avoir une consistance liquide. On ne va rien rajouter parce qu'en ce moment, melon et pastèque, ben, vous les gardez de côté pour l'instant.
D'accord.
On va s'en servir, vous inquiétez pas. Donc vous mixez ça. En ce moment, melon et pastèque sont suffisamment sucrés parce qu'il fait beau, on est en plein cœur de l'été. Donc on rajoute rien. On va utiliser ceci pour faire une soupe. On va mettre nos petites boules dedans, tout simplement.
D'accord.
Et alors, à la fin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter une herbe. Moi, je trouve que la menthe, c'est magnifique.
Ah oui.
Le basilic, ça marche très bien
ça
aussi.
Ça marche très, très bien, le basilic.
Ah oui,
oui.
Pour essayer.
Moi, oui.
Et puis sinon, on peut râper un tout petit peu de zeste de citron vert aussi pour donner un petit peps et quelques gouttes de ce citron vert dans notre soupe pour donner un peu de peps.
Tout ça au frais
et on emporte en pique-nique dans un tupperware bien hermétique. Bien
et comment
sûr,
on choisit bien son melon et sa pastèque ? Parce que là, les avis divergent.
Ça, c'est une bonne question.
Alors, on a déjà posé la question. Alors, pour le melon, ce qu'il faut, c'est que, vous savez, ce qu'on appelle le pécou,
la petite queue,
elle commence à se détacher. Alors, quand elle commence à se détacher toute seule, c'est-à-dire que le melon est bien mûr. Il y en a qui, à l'odeur, y arrivent, mais ce n'est pas toujours très fiable. Sinon, ce qui est très important, c'est de le soupeser. Un melon bien mûr et bien rempli, et lourd.
Ah, donc, c'est comme les pastèques, parce que moi, je connais ça pour les pastèques.
Exactement. Il faut prendre le plus lourd, à taille égale, vous prenez le plus lourd, ce sera celui qui aura la chair la plus dense et qui aura la cavité avec les graines la plus petite, donc il sera le plus rempli.
Merci beaucoup,
et
Olivier.
Et alors, sur la
Poul,
pastèque, il y en a certains qui toquent dessus aussi pour écouter. Il faut que
quelqu'un dedans ?
Non, alors... Oui, parfois, ça répond, d'ailleurs.
Ouais.
Mais il faut que le son soit mat. Ça veut dire que comme ça, elle est bien mûre. Oui. Parce que le melon, il va continuer à mûrir après avoir été récolté, alors que la pastèque, non. Donc, il faut... Et la pastèque, parfois, on l'achète, elle est déjà prédécoupée parce que les grosses pastèques. Donc là, vous prenez une couleur bien rouge, ça veut dire qu'elle est bien mûre.
D'accord.
Voilà. Vous savez
tout là.
Non, mais il faut toujours avoir un Olivier Poul à côté de soi.
Les pépins de la pastèque, vous les gardez, vous ne les jetez pas. Vous allez les faire griller légèrement torréfier, puis vous allez pouvoir les mettre dans une salade.
Ah, c'est pas mal.
Moi, j'achète des pastèques sans pépins. Mais...
Ah bon, d'accord. Ça, c'est vraiment américain, ça.
Ouais.
Si vous testez les recettes d'Olivier, vous faites une photo, vous nous l'envoyez sur Twitter, ratez ou pas la recette, et vous nous dites surtout si c'est bon, évidemment. Si vous avez des questions pour Olivier, vous n'hésitez pas non plus sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Merci beaucoup, Alex Good, d'avoir passé ces deux heures avec nous.
Merci à vous.
Vous
un plaisir,
signez
comme
la mise en scène de deux pièces. Le seul en scène, le piano perd les pédales, porté par Adrien. Le seul spectacle où il faut garder son portable allumé, c'est au théâtre Le Mélo d'Amélie avant une reprise le 8 septembre au Grand Point Virgule pour de longues semaines.
Pour de longs mois même, on
exactement.
Est parti pour longtemps.
Et quant à Ménopause, c'est au théâtre de la Maldenne
jusqu'à
la fin du mois d'août et après ça va reprendre. On attend le théâtre.
Ouais, là,
mais...
je ne pense pas que ça va s'arrêter. C'est le délire tous les soirs, standing ovation, tout ça. Donc venez voir nos Ménopausés.
Et voilà. Et on vous retrouvera sur France 3 Normandie à la rentrée, tous les jours à 10h50 pour Ensemble C'est Mieux, de l'info, des conseils, des invités. Ça ressemble un
beaucoup.
Peu au club de l'été. Voilà.
Exactement.
On vous souhaite un très bel été, Alex Good.
Mais vous aussi, amusez-vous bien.
Lise Pessac, Olivier Poul, rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Passez un excellent week-end. On va se retrouver avec le comédien Jalil Lesper. Ce sera lundi. Le club de l'été, c'est nos deux experts de luxe, mais aussi une équipe. Merci à Julien, Elisa, Sabrina, Anne, Alexandre, Antoine qui prépare avec nous ce rendez-vous.
Sans qui nous serions rien.
Exactement.
Rien du tout.
Et puis aussi un immense merci à Robin Bernot qui a réalisé ce club pendant ces trois semaines.
Oui, lui, je ne sais pas si on le remercie.
Pourquoi parce qu'il part en vacances après.
Et oui, bonnes vacances, c'est bien mérité, Robin. Bonnes vacances. Merci beaucoup d'avoir fait ces trois semaines avec nous. Reposez-vous bien. Voilà, on le retrouve à la tête de la petite matinale de Virgin à la rentrée. Et puis c'est lui qui réalise également la matinale de l'ami Camille Combal. Moi, je vous laisse en compagnie d'Anne Romanoff en vous souhaitant une très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À lundi.
Bon week-end.
Moi qui voulais toute la semaine te dire à quel point je t'aime.